C'est un drôle de projet, produire des podcasts. Très 2007 tout ça. Et puis derrière, nous avons ouvert un forum. Alors là, c'est complètement 1999. Et ce mois-ci, nous nous sommes lancés dans le crowdfunding récurrent. Très dans l'air du temps 2016. On parle souvent des modes du numérique qui naissent, dominent, sont ringardisés très très vite. Mais certaines restent et parfois forment une équipe complémentaire. Podcast, forum, crowdfunding. Et le ciment de tout ça, c'est quoi? Ce sont les gens. Les auditeurs de podcast, les membres de forum, les soutiens de financement, bref, vous. Et donc, on est là pour vous remercier. Merci à toi, Morgnac. Merci, JP. Merci, Johnny Bigood. Merci, ta mère. Merci, Alaya Brahim.
Merci, Lucille Briotet. Merci, Raja. Merci, Clayton DRX. Merci, Fontaine Cédric. Merci, Enrotin William.
Merci, JS. Merci, Thomas Ballandra. Merci, Maxime Ménard. Merci, Jérémy Million. Merci, Thomas Bernard, TMS BNRD, je sais pas. Merci, Laurent. Merci, Perspective. Clin d'œil. Merci, Yann Martelet. Merci, Floyd. Merci, Sous X. Merci, Tibbs. Merci, Alex Legrand.
Merci, Marc Coupreau. Merci, Poney Sauvage. Merci, Yab. Merci, Emeric. Merci, Kepra. Merci, Olivier Bouvet. Merci, Emmanuel Quentin. Merci, Thibaut Viotte. Merci, Olive.
Merci Christophe Bourza, merci beaucoup. Merci Maï Hua, merci Julie Delannoy, merci No Breaks, No Life, merci Cosmo Flash, merci Rémi Fanfan, merci Guillaume Ballet, merci Rémi Fac, merci William Pichou.
Merci Paul Gauthier, merci aussi à Solveig H, Guillaume Favreau, merci Sébastien de France, merci Fabien Nelly, merci Zombie Gamaride.
Merci Mister Patate, merci Dermé, merci Kevin Boyer, merci Brian Breckville, merci Marc Falzon, merci Simon Jacquier, merci Alexandre Carlian, merci Liora Christopher.
Merci Captain Hume, merci Pissaladière, merci Léo, merci Thomas Jubot, merci Angel Leibovitch. Merci Boris, merci Mathieu David, merci Benjamin Zanata, merci Sastre, merci Thomas Viard, merci Jean-Michel Hubert.
Merci Olivier Mourleva, merci Julien Blanc, merci Samsam91, merci Cyril, merci Jean-Clébert Laurent.
Et merci de nous soutenir, de soutenir Qualité qui produit cette émission qui va démarrer, c'est Studio 404.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par l'AM UA.
Bonjour à tous, bonjour à toi Morgnac, bonjour JP. Non, on les redit pas tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio 404 pour une nouvelle saison d'émission. On est très content de vous retrouver. On a encore fait de très très longs congés, on s'en excuse. Certains d'entre vous sont très impatients et très mécontents en même temps. On vous a quand même retrouvé il y a quelques semaines à Grand Train pour notre grande rentrée. C'était très sympathique. Et maintenant, les choses sérieuses commencent. Nous sommes de retour chez nos chers partenaires du Tank avec plein de chroniques sous le bras, avec plein de beaux projets dont on vous reparlera tout au long de l'émission. Et bien sûr, mes quatre inséparables chroniqueurs et mon super réalisateur et notre super voix qui nous ont préparé une très belle émission. Comment allez-vous, cher chroniqueur? Comment ça va, Fibre?
Ça va très bien. Je suis en train de jouer à Red Dead Redemption sur Xbox One. Alors, en rétrocompatibilité.
So 2009, 2011.
Quoi 2011 et une direction artistique de fou qui fait que ce jeu est quand même très beau et c'est le seul jeu relativement intéressant de ma ludothèque en ce moment.
D'accord, très bien. Ça va, Daz?
Ouais, ça va très bien. Et le mec, il cite même pas ses propres jeux, ce qui est déjà un signe assez révélateur. Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup. Moi, je suis en train de jouer à Elite Dangerous, comme c'est le cas depuis 2 ans. Voilà.
Et t'as un iPhone 7 sponsorisé par Webedia, dites donc.
Oui, tout à fait. C'est pas du sponsoring, puisque je travaille pour de vrai. Donc, c'est un salaire.
C'est juste de la corruption.
Non plus, parce que je ne suis pas journaliste. Eux non plus, hein, je précise.
Sylvain, comment ça va?
Ça va très bien. Je suis en pleine reconversion professionnelle. Je quitte le freelance pour me mettre en...
Blogueuse voyage, on a vu. Hein,
blogueur voyage, exactement, ouais. Pour être en vacances toute la vie.
On a vu des belles photos de toi, devant des lacs, une vue de dos comme ça.
Arrête, je vais pleurer.
Oh là là, de tes propres photos.
De mes propres photos.
Mélissa, comment ça va ?
Ça va très bien, j'ai pris une résolution de rentrée.
Ah oh bah tiens, dis donc, c'est vrai. Mélissa qui prend une résolution de rentrée.
Dans ma to-do list.
Ouais.
Aller sur le forum de qualité.
C'est pas très attendu.
On m'a signalé l'existence du chan Je ne suis pas Mélissa Bounois. Du coup, je peux aller faire un chan Je suis Mélissa Bounois ou juste être Mélissa
Bounois. Je te propose d'aller poser des questions. Je ne suis pas Mélissa Bounois. Emma.
En tant que Mélissa Bounois.
Voilà. Bah écoute, ça va être très bien. Bon, bah je sens que vous êtes très chaud. En tout cas, on démarre cette première émission de la rentrée au Tank et elle soit entrecoupée de petits extraits de notre soirée de rentrée que nous avons fait en collaboration avec les amis de chez Grand Train. Nous vous avons posé des questions et vous avez répondu, bien sûr, ça a été à la hauteur de nos espérances. Allez, on commence tout de suite et c'est Fibre Tigre qui ouvre le bal.
Sujet numéro 1.
Je viens vous chanter la balade des chanteurs de monstres virtuels heureux.
Oh là là, super.
Alors, Gislain m'a dit, t'es sûr qu'on fait un jingle chanté parce que NG sait pas chanter. Et on lui a dit, bah, parfait. Donc merci Gérard Lenormand pour le sample.
C'était très beau.
Et on parle de chasseurs de monstres virtuels, mais de quoi va-t-on parler, Fibre Tigre, enfin ?
Et là, tout le monde a tout dit sur Pokémon Go.
Ah, on va parler Pokémon Go.
Oui, Pokémon Go, donc tout le monde a tout dit avant nous, parce qu'on était en vacances, et aussi parce que ça apporte du clic. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait ça pour ça un peu. Donc, je vais pas vous proposer d'analyser Pokémon Go, etc., mais de le vivre.
Carrément.
Donc, cet été 2016, le monde occidental a peur des attentats, a peur de sortir. Tout le monde occidental, non. Un petit village irréductible de 150 millions de personnes résiste à l'envahisseur. Ce village est... Le village des chasseurs de Pokémon. Alors, est-ce que vous jouez à Pokémon ici ?
Oui.
Alors, l'âme ?
Oui.
Tu peux nous dire niveau, team ?
Niveau 20, mais j'ai à peu près 250 évolutions à faire et 5 of chance, donc j'attends pour tout balourder d'un coup.
Et team quoi ?
Team sagesse.
Ah, bien.
Alors, je ne joue pas, mais j'ai lu beaucoup d'articles sur les questions, mais je n'ai pas installé l'appli sur mon téléphone.
Niveau 11, team sagesse, j'ai désinstallé l'appli hier.
Oh là là.
Niveau 12, team rouge, je sais pas le nom.
Force.
Bravitude.
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 Bravo. Ouais.
Alors ici, niveau 16, team sagesse, donc bien. Comme dans la vraie vie, j'ai un Pokéstop dans mon lit, j'ai un nid à scarabrut sur le chemin du kebab. Déso, pas déso, les provinciaux. Pokémon, c'est magique et Pikachu baise le système comme un rêve humide de Ben Laden. Parce que j'essaie de citer Ben Laden à chaque fois. Magikarp, je te choisis. Attaque trempette, explose ces marketeurs en col roulé qui voulaient nous vendre une réalité augmentée ultra informative. Jarvis d'Iron Man avec des tas de petites icônes oppressantes partout pour nous faire acheter des Nike. Et place des petites créatures mignonnes dans nos jardins, sur nos chats, sur notre bureau et pour rien, pour le fun. Un peu comme le petit gros qui regarde les gâteaux par la vitre de la boulangerie, je regarde avec envie les pubs Fitbit ou Smartwatch avec ces hommes et ces femmes super sportifs qui kiffent leur marathon quantified. Et ensuite, Pokémon est enfin arrivé, l'appli cool qui te fait marcher sans t'en apercevoir et sans la pression de la néoculture sport et de la secte qui est la plus grosse, aka les Freeletics. Et ça commence comme Freemasons, ils sont partout. Pokémon n'est pas un jeu complexe, il n'est pas non plus minimaliste, il est juste simple, il est accessoire. L'idée est moins de devenir le meilleur dresseur que de partir de la maison en disant à sa famille « Je vais chasser des Pokémon sauvages, je reviens tout à l'heure ». Sérieux, c'est pas la kiffance. Imaginez nos parents qui jouaient aux cow-boys et aux indiens pouvoir dire « Bon, je vais attraper au lasso quelques chevaux sauvages et je reviens ». Eh bien, leurs petits-enfants, ils ont vécu cet été le passage du rêve à la réalité. Pokémon n'est pas en permanence sur mon téléphone. Quand j'ai la liberté de faire une belle promenade, je le réinstalle. Pour les Pokémon, mais aussi pour les Pokéstop qui nous font découvrir, façon guide touristique ultra précis, les points importants de votre parcours. Alors, instant confession, je ne suis pas techniquement né à Paris. Et dans cette ville natale,
il avoue,
on y vient,
qui ne se trouve pas à Paris, eh bien, Pokégo m'a, Pokégo m'a fait découvrir des lieux, des fresques, des statues que tout le monde a oubliés ou jamais remarqués. Et sur ce point, la réalité augmentée, la RA, marche dans l'autre sens. L'objet réel disparu de notre champ de vision apparaît à nouveau dans nos vies avec l'appli. Donc, petite parenthèse, je lâche le concept au digital prophète des méthodes de management en 10 points nourries au petit four des TEDx de province. Pourrait-on parler d'une virtualité augmentée ? Alors, les vieux qui disent « Bouh, vous, les gens qui marchent dans la rue sans rien regarder, allez rejoindre vos potes au bistrot et tirez-vous la nouille les uns les autres en disant que ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre. Car, eh ouais, Pokémon nous fait sortir quand Zemmour voudrait nous voir trembler. Et dans cette France de la peur Cazeneuvième, Sarkozy, qui appuie son pouvoir sur la peur d'être dans un endroit public, la peur d'être dans une culture que l'on ne comprend pas, la peur tout court, eh bien, Pokémon devient un manifeste de rébellion soft power en réenchantant nos vies, en nous rendant à l'extérieur, en public, avec des inconnus, avec simplicité et tout simplement heureux.
Fibre 2017.
Ah, candidat des Pokémon.
Donc Fibre enthousiaste, hein, on l'a compris, pro Pokémon.
Bah, disons en tout cas anti Pokémon. Voilà. Les gens qui disent Pokémon, c'est
anti
nul.
Anti Pokémon.
Voilà, c'est mignon, c'est enchanteur, ça mange pas de pain. Il y a eu des tribunes pour, il y a eu des tribunes contre, et les tribunes contre étaient un petit peu régressives sur le sujet.
Au-delà de ça, on a l'impression que des gens ont analysé les valeurs vidéoludiques du jeu, les symboliques et tout, et toi, à un moment, tu te dis fuck, c'est juste, c'est cool. On s'amuse, on ressort, on découvre.
C'est super light, même. Je pense que le jeu ne pourrait ne pas exister, c'est-à-dire que finalement, les gens se retrouvent au jardin des plantes avec des sacs à dos, des casquettes, ils sont entre amis, et voilà. Le jeu est là, c'est cool, mais à un moment, il pourrait s'évaporer, quoi.
D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'enthousiasme des fibres?
Je partage l'enthousiasme, mais t'es plus qu'enthousiaste. Hein. Tu penses que c'est en train de sauver le monde, quand même.
En tout cas, c'est plus sympa que l'affaire Burkini, quoi.
on sent que Fibre Auditeur, il balance du
des mots-clés. On n'est pas sûr.
Il n'y a pas de référencement audio encore pour les podcasts, Fibre. Je sais, ça viendra, donc il faut
anticiper. Tu peux le mettre dans l'URL si tu veux.
Mais toi, donc, t'es enthousiaste, mais tu dis, par contre, ça reste quelque chose de léger.
Je trouve qu'on en fait un peu des caisses, des deux côtés, hein, on en fait un peu des caisses sur, oh là là, c'est la revanche des nerds, ça fait faire du sport aux gens, ça va, c'est pas en marchant 3 km par jour que ça va changer grand chose. Et les gens vont se parler entre eux, etc. C'est pas non plus un truc de fou comme on essaie de nous le faire croire.
Mec, t'étais dans l'Oregon, mais il s'est passé des choses cet été. Hein.
C'est assez impressionnant quand même.
Mélissa Daz, tiens, je voulais avoir l'avis de Mélissa qui du coup connaît tout sur le jeu mais n'y a jamais joué. Ouais. Est-ce que ça te donne toujours pas envie quand même de tester la chose?
Alors, il y a eu un problème pratique, c'est que je n'ai plus de place sur mon iPhone comme beaucoup de gens. Donc, je n'ai pas installé l'appli.
Team 16 Go.
Voilà, Team 16 Go.
Ah là là, Team 16 Go.
Mais j'ai vu les gens jouer. Non, j'ai vraiment vu l'espace changer presque du jour au lendemain avec des gens qui étaient seuls dans la rue sur leur téléphone. Donc tu savais qu'ils faisaient ça. Ouais. Et ça, c'était fascinant.
On les reconnaît à plusieurs signes. On reconnaissait surtout le câble blanc de recharge.
Ouais. Le petit sac à dos.
Pour les iOSOS et puis
le petit sac à dos avec la batterie avec tous les gamins qui sont là tous rivés sur 3 téléphones en disant t'as vu comme ça. Et je trouvais ça vraiment fascinant de voir comment l'espace public a changé en un jour. Après, c'est un peu retombé, donc je suis un peu.
Bah là j'étais à la Villette tout à l'heure. Il y a un troupeau de gens qui est passé en courant, qui a traversé le
pont. Mais je comprends pas.
Tremblé de toute son âme.
Mais pourquoi ils courent tous en fait?
Parce qu'il y a des Pokémon qui apparaissent à certains endroits pendant un certain nombre de minutes. Donc si tu n'y es pas, tu ne l'as pas.
Voilà. Et donc tous les mecs courent.
T'as loupé le Tortank.
Exactement, tu cours.
À noter que aujourd'hui, à l'heure de la publication de cette émission, Pokémon n'est pas l'application la plus rentable du marché, elle n'est que la deuxième plus rentable. Mais elle l'a été tout l'été. Voilà.
C'est quoi la nouvelle plus rentable?
Clash Royale.
Mais Clash Royale, parce qu'ils ont fait un gros push et une grosse promo pour laquelle j'ai craqué, mais ça, c'est une autre histoire. Daz.
Ouais.
Pokémon Go.
Eh bien, non, je partage l'enthousiasme communicatif de Fibre. Ce jeu permet à pas mal de gens qui ont un certain nombre de phobies et de névroses, c'est-à-dire Fibre et tous les gens comme lui, de les soigner par le software. Et je trouve ça cool, en fait. Ouais. Si ça permet à des nerds de sortir, bah, qu'ils sortent, hein, et puis,
Est-ce que cette idée de surcouche dont parle Fibre? Parce qu'on a souvent dit la principale critique, de Pokémon, c'était les gens en marche, ils regardent plus rien, ils sont les yeux rivés sur leur écran. Ouais. Fibre prend le contre-pied tout ça en disant, mais non, justement, moi, ça m'aide à redécouvrir déjà, à sortir, à redécouvrir des lieux, et dire, ah, c'est marrant, s'il y a du street art, il y a des choses. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Ça vous l'avez
vécu?
Ouais.
À Maison Alfort, berceau de l'humanité, il y a 3 ou 4 Pokéstops pas trop loin de chez moi, et c'est effectivement, ils sont positionnés sur des endroits que tu regardes pas trop, quoi, des fresques murales ou des monuments aux morts, etc. Et effectivement, c'est. Je dis, ah oui, c'est vrai, il y a une fresque.
Depuis, t'emmènes voir ta fille, les monuments aux morts tous les matins.
Non, elle est trop petite encore, pour comprendre le jeu.
T'inquiète, ça va arriver vite. Cette petite surcouche, on parle de réalité augmentée qui arrive, qui machin. En fait, c'est la première expérience de réalité augmentée en masse, non?
Moi, j'ai une question, là. Qui joue avec la réalité augmentée?
Non, moi, j'ai désactivé.
Voilà.
Moi, j'ai joué avec la réalité augmentée parce que j'ai une batterie externe. et un 6 plus. Mais c'est vrai que ça, c'est pas jouable.
Non, non, même si on veut performer, c'est-à-dire prendre beaucoup de Pokémon, il faut désactiver la réalité augmentée. Cela étant, quand tu es en famille, avec des, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sortent ensemble, les gamins qui courent derrière le papa en disant, ah, j'ai mon Scarabrut, eh ben, eux, ils jouent plutôt en réalité augmentée parce que c'est fun.
C'est les casus.
Mais après, au-delà de la réalité augmentée, c'était vraiment sur la map, le fait de, comme disait Fibre, de, il y a une sorte de curation de l'espace réel, il y a une éditorialisation de l'espace réel, on recrée des calques.
Qui est crowdsourcé en plus.
Ouais, c'est-à-dire que qui vient d'Ingress, c'est ça?
Voilà, les Pokéstops, c'est-à-dire, vous avez des Pokéstops ici et Néampère, tu vois. Mais t'as des Pokéstops genre, sculpture complètement moche, et ça, je pense pas que c'est Google qui l'a fait, c'est juste un gamin qui a sourcé ça dans Google Maps, quoi.
Mélissa.
Mais j'ai l'impression que vous y jouez pas tant que ça, par rapport aux autres jeux dont vous parlez d'habitude. Genre, il y a une telle hype qu'on en parle aujourd'hui, mais j'ai l'impression que vous y jouez pas tant que ça. Et toi, tu disais, l'âme, que, en fait, c'est hyper simple dans le gameplay. Enfin, c'est pas très,
c'est con, quoi. Sûrement en parler parce que un jeu comme Elite, c'est un jeu à l'ancienne qui est un jeu monotache. On peut faire que ça et c'est très long. Pokémon, comme on dit, c'est un agrément de la vie réelle.
C'est une companion app, en fait.
C'est une companion app.
Tu lances sur le côté quand tu fais autre chose et, en fait, quand tu te déplaces, tu le lances, tu chopes deux, trois trucs et puis après, tu le refermes, quoi.
Parce qu'en vrai, dans la stricte définition du terme, Pokémon Go, c'est pas un jeu. Tu peux pas mourir, c'est hyper répétitif.
Il y a même pas de.
Tu peux pas mourir que c'est pas un jeu.
Non mais tu peux pas perdre, technique, il y a pas de marge de progression, il y a pas tout ça.
Il y a pas grand chose.
Il y a juste un leveling et c'est tout.
Beaucoup de, enfin, en tout cas, les définitions que vous donnez là, ça correspond à beaucoup de jeux AAA. Assassin's Creed d'Ubisoft, tu peux pas mourir, tu peux pas perdre, tu es obligé d'avancer.
Oui, mais le jeu n'est pas le même au début et à la fin du jeu. T'as évolué, ton personnage a évolué, il a plus de capacités, il peut faire plus et de trucs, il y a des nouveaux ennemis, etc.
Là, tu collectionnes des Pokémon qui évoluent et qui changent et t'as une collection.
Bon, en même temps, Fibre Tigre, il a fait Outzer, hein, donc c'est un nouveau jeu un peu vide.
Non, par contre, pour rebondir ce qu'avait dit Sylvain, la réalité augmentée, c'est pas simplement le fait d'avoir le décor et un petit Pokémon devant, c'est aussi on augmente notre vie, notre réalité avec un jeu. Une couche de jeu. C'est-à-dire que je vais aller chercher une pizza et je ne me fais pas livrer parce que je vais avoir deux Pokéstops sur le chemin. Ouais. J'ai augmenté mon parcours.
Donc c'est quelque chose qui te motive.
Bah, c'est pas simplement une motivation.
Parce qu'on parle d'une companion app, mais c'est aussi, enfin, c'est quelque chose qu'on emmène avec soi, mais c'est quelque chose qui nous prend par la main et qui nous fait sortir, du coup. Enfin, on a des amis, on pourrait faire un c'est cool, c'est quoi, les Pokémon, mais il y a des gens qui sont passionnés par Pokémon Go et qui, eux, du coup, gèrent leur journée, enfin leur motivation c'est Pokémon Go et vont gérer leur journée à vélo, en bus, en tout ce que vous voulez.
Mais c'est des choses qu'on a vu à une échelle beaucoup moindre avec par exemple Instagram. Moi quand j'ai découvert Instagram, j'allongeais mes parcours parce que j'allais passer par des endroits jolis, faire un bel Instagram, avoir des likes. Et aujourd'hui il y a une notification. Non mais c'est le cas.
On en a parlé déjà.
C'est vrai, Fibre a un peu raison là-dessus, c'est que d'une certaine manière on est dans l'application. Enfin est-ce que c'est du virtuel ou pas, mais dans l'application, la technologie qui va motiver ou qui va conditionner les déplacements réels qu'on fait, en fait. Mmh. Là-dessus, on est. Vous laissez sur Instagram?
Moi, personnellement, je le sors pas. C'est vraiment, moi, ce que j'ai expliqué avec Pokémon Go, c'est-à-dire, je le sors quand je suis en train d'aller quelque part, mais c'est pas Pokémon Go qui me fait aller quelque part.
D'accord. Donc, toi, t'es dans la frange modérée.
Ouais.
Et puis, j'ai pas l'impression que tu fasses un parcours ou. C'est plus comme on disait des mecs qui squattent à la villette toute la journée.
Oui.
Mais tu vas pas forcément te faire un parcours ou alors un petit détour pour aller au travail parce que t'as vu sur un agrégateur sur une map qu'il y avait tel type de Pokémon à tel endroit. Mais
ça veut dire que tu cheats un peu.
Mais tout le monde cheat à la villette. Ils ont tous la carte.
Non, c'est désactivé.
Je croyais qu'ils avaient coupé tous les sites tiers là qui proposaient des.
Bon, en tout cas, la villette c'est dans les grands parcs. Ouais. Ça reste assez impressionnant à voir des gens qui des wagons de gens qui courent d'un endroit à un autre.
Au Jardin des Plantes, il y a 4 Pokéstops dont les rayons d'action se croisent comme des diagrammes de Venn. Donc il y a un lieu magique où on était aux 4. Et les gens ils mettent 4 leurs en permanence, tu vois. Donc toute la journée, les gens ils sont là et ils ramassent du Pokémon.
Donc les gens ne bougent là, du coup, les gens ne.
C'est une grande communion, c'est-à-dire qu'on est là, un peu comme dans un, on va dire, un repère de mecs pervers, on lève la tête, on se reconnaît, tu vois. En fait, non, notre perversion, c'est Pokémon, quoi.
Très bien, mec, on a un père, d'un coup, ils ouvrent l'impère, dedans, il y a plein de chargeurs de batterie, cachés à l'intérieur.
Non, mais il y a peut-être, tu sais, le business des cadenas des ponts, ça s'est fait d'un coup. Ben, franchement, tu vendrais des batteries à ces endroits-là, il y aurait certainement du business à se faire.
Très bien, le petit gars avec son caddie à l'arrache, avec des bouteilles d'eau fraîche et des. Des
blague à part, je pense que je vais conseiller ça aux Pakistanais qui vendent des trucs à la sortie de la Cogip.
Non, mais il y a des glaciers qui ont la chance cet été d'avoir eu des Pokéstop en phase 2. Ouais. Ils investissaient, ils mettaient des leurres à volonté et des prix spéciaux pour les chasseurs de Pokémon. Et les mecs, ils s'en sont mis plein les poches. Ouais. Et ça, c'est ouais, super
c'est
business.
C'est vrai que j'ai dit, 3 jours après la sortie de Pokémon Go, j'ai vu les premiers articles marketing avec plein de tips pour, t'as un coffee shop, comment tu fais pour faire
Monoprix,
des gens,
Monoprix, ils ont fait
ça va être chasseur, ça va être un des business plans, des plus gros business plans de Pokémon Go d'ailleurs. Ça va être de vendre à des endroits. Du sponsoring,
ouais. Ils l'ont fait en Chine déjà.
Voilà, ces Chinois sont forts.
Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi Ingress, ça a pas marché comme ça, quoi.
Parce qu'il n'y a pas Pokémon.
Attendez, excusez-moi, Ingress, ça a marché. Tu vas à Rennes, il y a 200 joueurs d'Ingress. Hein.
Ouais, ok.
Et les mecs, ils se battent.
Ouais, alors, définition de ça marche.
Ça marche.
Alors, 200 mecs à Rennes. 200 mecs à Rennes,
non, mais
ça marche.
Non,
Ingress a une communauté, je pense, unie, mais n'a jamais passé un cap de reconnaissance globale. Très peu de gens connaissaient Ingress.
Mais après, cet été, j'ai aussi rencontré énormément de gens qui m'ont dit, un peu comme mon service, c'est le Netflix du. Là, c'était, mon futur jeu, c'est le Pokémon Go du. Et là, mets n'importe quoi derrière. Mais effectivement, c'est le piège parce que Pokémon Go,
c'est
un phénomène culturel. C'est Pokémon, c'est 20 ans de marketing ultra pointu. Donc, on a parlé de Harry Potter Go quand il y a eu la folie Pokémon Go. À part ces grands mouvements Star Wars Go, on ne pourra pas reproduire ça. Et je pense que même ce ne sera pas reproduit.
On va faire un Seven Go avec des psychopathes
ou des
meurtres à
faire. Les jeux en Go, ils existent déjà, de toute façon, sur l'App Store, des Hitman Go et des trucs comme ça.
Oui, c'est autre chose.
Le nom.
Non, mais par exemple, il y a eu Mario qui arrive à l'App Store.
Mario Run, pas encore. En décembre, il arrive.
Bon. Mais en tout cas l'icône existe sur le truc.
Ouais, non, la page, ils ont fait une page pour te dire de
revenir. Oui, c'est pas le runner, c'est Mario qui va tout faire.
Ouais.
Donc là c'est quand même Pokémon qui fait tout.
Ouais.
Question pour vous, est-ce que le fait que ce soit justement pas vraiment un jeu vidéo, ça vous a freiné ou ça vous a justement encouragé à dire il y a pas de prise de tête, il y a pas de grind, il y a pas de pression, justement, c'est volontairement simpliste voire un peu pauvre, mais du coup comme disait Daz, on reste dans la Companion App, c'est une sorte de petit agrément de déplacement et pas plus, et c'est ce qui fait aussi le succès finalement. Vous êtes d'accord ? Vous êtes plutôt du côté des joueurs à dire non, je voudrais qu'ils améliorent l'arène, qu'on puisse monter des équipes.
C'est le truc qui fait que j'y joue pas, tu vois. C'est le truc qui fait que je l'ai lancé au début, que je vois comment ça fonctionne, que quand je dois aller quelque part, je vais le sortir pour voir s'il n'y a pas des trucs à attraper, mais je veux dire, tu dors pas dessus. Moi, je dors pas dessus parce que justement, pour moi, il y a pas de jeu, il y a pas de boucle de gameplay,
Une fois que t'as saigné un peu les astuces, genre la technique de l'off chance, machin, les leurres, etc. Une fois que t'as fait le tour de l'application, en fait, moi, je l'ai désinstallé pour ça, parce que j'avais fait le tour.
Vous avez toujours une approche de joueur, on va dire classique, c'est-à-dire que vous êtes un peu bloqué par le manque de challenge.
Ouais, mais je trouve ça cool que l'appli existe quand même. C'est-à-dire que moi, je sais que ça me parle pas trop. Par contre, je trouve ça incroyable de voir les groupes de petits gamins à côté de chez moi qui traversent la ville toute la journée de long en large pour choper des trucs, quoi. Tu vois.
Ouais.
Il y a toujours eu cette petite rivalité entre les villes, hein, Interville, Saint-Étienne, Lyon, tout ça. Et je trouve qu'on la retrouve un peu dans Pokémon. C'est-à-dire qu'il y a des Pokémon qui sont par continent, par pays. Et aussi, il y a des Pokémon qu'on trouvera à Paris et pas ailleurs.
Ah ouais.
Et je trouve ça assez cool de dire, oh putain, tu l'as trouvé où celui-là? J'étais en vacances et les Poissirennes, il n'y en a pas ici. Donc, il y a ce côté, je l'ai et toi, t'en es où? Donc, c'est aussi cet effet social-là que je trouve intéressant.
Le bragging.
Mais ça, toi qui ne joue pas aux jeux vidéo, n'a pas essayé Pokémon, est-ce que ce côté simple.
Ouais, j'aurais voulu, si j'avais eu la place sur mon iPhone.
Donc toi, t'aurais voulu.
Bah oui, parce que clairement, justement, j'ai pas ce truc où je dois m'immerger pendant des jours pour avancer. J'aurais juste pu y aller de temps en temps, j'aurais fait des balades et j'aurais chopé des Pikachu, j'aurais adoré.
Mais la team 16 gigas.
Ouais, exactement. Elle a gagné.
Je te refroidis un peu, on ne chope pas des Pikachu.
On a un gros joueur de Pokémon Go à Slate et le jour où il a trouvé un Pikachu, il a fait un papier, donc je fais tu
vois. Oh, Daz, il dit, putain, j'ai même plus besoin de Vanessa, là.
Les vannes arrivent toutes seules.
C'est clair.
Donc j'ai compris l'importance de la chose. Voilà.
Très bien, très bien. On verra vous sur le forum. On verra. Sur le forum, ça parle déjà beaucoup de Pokémon Go. Mais en tout cas, on verra surtout sur le côté, justement, cet entre-deux entre le jeu vidéo et le non-jeu vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui bloque ou qui, du coup, pourrait attirer plus de monde? Alors, on attaque tout de suite un premier extrait de vos témoignages à grand train.
FAQ.
Allez, merci à tous pour Pokémon Go et on se retrouve maintenant avec une série de questions. La première que nous vous avons posée lors de notre soirée à Grand Train, où nous avons d'ailleurs joué à Poketank tous ensemble, c'était assez marrant. Et vous nous avez parlé de ce qui vous a marqué cet été, le buzz ou le bad buzz.
Sur le numérique, même si je suis pas très très gros utilisateur, c'est quand même les Instagram Stories. avec ce plagiat pur et simple par Marc. Donc bon, ça, je pense que c'est assez marquant le côté, le message, je pense, pour toutes les futures startups qui se feraient potentiellement racheter par Facebook, de dire bah si t'acceptes pas mes 3 milliards, tu sais ce qui t'arrive quoi.
Les plusieurs heures de retard qu'il y a eu pour prévenir de l'attentat à Nice, qui fait que c'est assez ridicule. Bah en fait, visiblement, ils avaient un unique serveur. Ils n'avaient pas pris de serveur de rechange en cas de problème. Et il se trouve que durant les attentats, le serveur était en maintenance.
Non, Pokémon Go, ça a été un bon buzz. Pendant 2 semaines, dans ma boîte, il n'y avait plus personne qui bossait. C'était... Alors, je suis développeur. Et avec mon collègue développeur, on est tous les deux développeurs iOS. Du coup, pendant 2 semaines, on a fait des applications qui faisaient des fausses données GPS, et on commençait à faire des bots pour Pokémon Go. Et alors c'est de la triche, hein. c'est pas bien.
Pas bien,
mais c'était un jeu dans un jeu, c'était la compétition à la programmation. Mais bon, maintenant on s'en fout, on a arrêté de jouer. Mais non, même pas, on s'est pas encore fait ban. Mais voilà, c'était un peu un concours de programmation. C'est pendant 2 semaines, on n'a pas bossé.
Récemment, je dirais l'explosion de la navette de Elon Musk. Mais d'un point de vue non numérique, ce qui m'a énormément gêné cet été, c'était le burkini. Et j'ai un peu honte d'en parler, parce que je trouve ça très gênant. Et vraiment, ça m'a fait mal de suivre ça. Et pour le coup, je l'ai suivi à fond, mais ouais. C'est...
Le retour d'Amine Morito sur Snap.
Bah, je me suis remise sur Tinder. Donc ça m'a un peu marqué. Et je trouve que l'appli Appen est bien, mais pas très belle.
Ouais, bah dernièrement la fusée de SpaceX qui a explosé là. C'est un truc que je suis à mort. Je kiffe voir cette fusée atterrir à chaque fois et là tu dis ah merde quand même, c'est con quoi, c'est con.
Le logo de France Info. Et le prix du logo de France Info qui représente pas le prix du logo mais de toute la com, et c'est énorme. Et quand on est un minimum dans la communication et le design, on se rend compte que on parle beaucoup pour rien dire en fait.
Ce qui m'a marqué, c'était le débat sur la shitstorm que s'est pris la blogueuse Hello Valentine. Je trouvais qu'il y avait une forme d'hypocrisie parce que finalement tout le monde est derrière le scoring, tu vois, sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut avoir des likes, etc. Et elle l'a dit naïvement et de manière très maladroite à sa communauté, ce qui a créé une shitstorm énorme. Moi, je trouvais qu'elle était un peu naïve sur le sujet, mais je voyais pas ce qu'il y avait d'aussi horrible. Et je trouvais intéressant, en tout cas, d'en parler. Même si la forme était pas ouf, le débat était intéressant et je trouve que le débat s'est pas fait. C'est juste parti en shitstorm et en c'est horrible de dire ça. Alors qu'en fait, tout le monde. Enfin, il y a des gamines qui suppriment leurs photos Facebook parce qu'il n'y a pas assez de likes.
Ah, c'est des gamines si j'y retire.
Tous les jours.
Allez, on attaque la deuxième chronique tout de suite. Et justement,
ça alors.
C'est Sylvain qui va nous parler de Valentine.
Sujet numéro 2.
Nous sommes tous des Hello, it's Valentine. Face à la détresse du like.
Problématique hello, ça hello. Quand les auditeurs écrivent les chroniques, c'est un peu
mieux chiant que les chroniqueurs. Hello, it's Sylvain.
Hello, it's Valentine. Bonjour, c'est Valentine. Pour cette rentrée littéraire 2056, nous allons parler du prix du roman historique et si on parlait d'Instagram, autobiographie d'une blogueuse en 2010 par la vénérable et prolifique Valentine Vanesse qui, coïncidence du calendrier, fête ses 73 ans aujourd'hui. Imaginez. Ce roman revient sur un épisode bouleversant de sa vie, un épisode qui a déclenché la fin de sa carrière de blogueuse, 3 ans avant l'éclatement de la seconde bulle Internet. L'ouvrage débute par la republication brute, sans mise en forme, du billet de blog qui avait disparu du web en juillet 2016, où Valentine Vanesse livrait un témoignage touchant, profondément déçu et choqué, de la passivité de ses lectrices sur Instagram. Pour moi, c'est juste une évidence, quelque chose qui me semble logique. Ne pas liker si j'aime paraîtrait très hypocrite de ma part. J'aime, mais je ne le fais pas savoir à la personne. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en retire, in fine, de ne pas liker? Double-cliquer sur mon écran ne me demande aucun effort à moi. En faisant ce geste, je ne m'engage absolument pas. Mais je le fais car cela me semble important, dans une démarche de spectatrice enthousiaste. Comme à l'issue d'un spectacle, j'applaudirai la performance des artistes, même topo. Mes proches vous confirmeraient que j'adore applaudir. Haha. En effet, 2000 likes pour 25 000 impressions, un taux de conversion de 8%. Trop peu alors pour notre jeune auteur au regard du travail déployé. La tempête de haine déclenchée par ce post sera sans précédent. Aujourd'hui, les internautes savent qu'ils ont eu tort et reconnaissent sans détour le regard génial et visionnaire que Valentine, Valoche, Vanesse portaient alors sur notre société et notre économie. Mais en 2016, le monde n'était pas prêt. Et pourtant, d'autres génies, d'autres visionnaires prenaient déjà la parole pour mettre en garde les internautes et leur montrer les signes qu'ils ne voyaient pas encore.
La révélation, c'est que, en fait, j'ai toujours eu 4000 personnes qui me suivaient. Ouais. J'ai fait des blogs, 4000 lecteurs. J'ai fait des vidéos, 4000 lecteurs. Même des vidéos pour des événements un peu plus gros, tu vois, où j'avais de l'espoir, 4000 spectateurs.
Extrait des Mémoires d'Henri Michel, Membrane et Dilatation, aux éditions de La Patchole, 2015. Et soudain, les consciences s'alignèrent. Internet comprit alors qu'il existait une et une seule règle qui sous-tend toute la toile. Tout le monde regarde ses stats. Tous les blogueurs, instagrammeurs, tweetos, podcasters, livestreamers comptent leurs stats, leurs clics et leurs likes. Les yeux rivés sur Google Analytics, j'entends la complainte de l'internaute d'alors. Il n'y a pas ici, comme certains ont pu le dire à l'époque, un jeu d'ego ou encore un jeu économique où la statistique est une monnaie d'échange avec les marques. C'est bien plus que cela. On a entendu « Valentine est maladroite et à fleur de peau » ou « C'est ce qui l'a fait vivre, normal qu'elle se plaigne ». C'est bien plus que cela. On a aussi dit « Elle ne sait pas écrire ». Ça, c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est vrai également, c'est que tous ces indicateurs qui nous fournissent les plateformes sur lesquelles nous produisons notre contenu nous permettent de garder le contrôle et surtout d'agir et de faire. Lorsque Valentine moque et plaint la passivité de ses lectrices, elle exprime sa peur de la passivité à une échelle plus métaphysique, philosophique. Le monde dans lequel nous vivions ne nous permettait plus d'être passifs. L'immobilisme, c'était les morts. Le mouvement, c'est la vie. Nous avions peur. Un contenu provoque des chiffres qui me permettent de mesurer mon efficacité. Ce tweet n'a récolté que 3 likes depuis sa publication, je le supprime. Extrait de Fibre Tigre, Twitto Ordinaire, 2013.
Un peu plus de likes quand même.
Un peu plus de likes. Stressés par la data, nous relevions nos compteurs en permanence. Les professionnels de l'époque avaient même trouvé un nom pour cela, les Vanity Metrics. C'est cette course qui sous-tendait l'économie du web. Elle était futile et nous le savions, nous la moquions. Mais en réalité, nous n'osions pas nous en affranchir. Les plus courageux disaient n'en avoir cure, mais ils savaient parfaitement qui regardait leur story Snapchat. Ils regardaient en cachette, ils regardaient comme tout le monde. Aujourd'hui, nous dévorons ce roman historique pour nous rappeler qui nous étions et les erreurs que nous avons faites. Aujourd'hui, dans le quatrième Internet, celui du slow consuming, Mélissa, nous avons supprimé les indicateurs et ne publions plus que du contenu pur, pour ce qu'il est. Et plus personne ne s'énerve. Par contre, tout le monde parle très très lentement comme moi.
Retour en 2016.
Retour en 2016. Bonjour à tous.
Sylvain, on parle pas lentement.
Eh oui, on a un peu rajeuni.
Dis donc, en 2056, Valoche, comme on l'appelle très très affectueusement sur Internet, aura eu raison.
Voilà, c'est un peu notre Welbeck à nous.
La possibilité d'un like, tu veux dire?
La possibilité d'un like, exactement.
Donc cet été, comme d'habitude, Internet a besoin de shitstorm et de sang un peu. Valentine, qui est une des blogueuses les plus suivies, les plus populaires, mais aussi les plus détestées et critiquées, qui est un peu la post-babillage, quoi, la néo-babillage.
C'est un peu ça, ouais.
Publie donc ce post où elle se plaint donc d'avoir beaucoup de vues et très peu de likes et de se sentir blessée par rapport à l'effort qu'elle met dedans.
Oui.
Donc tout le monde se moque d'elle et toi tu défends quand même.
Moi je prends sa défense.
Tu prends sa défense.
Oui. Putain de troll.
Parce qu'elle dit non, elle dit tout haut ce qu'on fait tous tout bas, on compte tous notre like, etc.
Pour la citer de tête, donc approximativement, elle a dit si vous allez à un spectacle et que vous n'applaudissez pas, c'est comme si vous n'étiez pas venu.
D'accord, mais c'est, moi je trouve ça pas si bête, c'est pas si bête.
Mais non, mais c'est pas. C'est,
non mais.
Attends,
allez, Mélissa. C'est parti.
Mélissa a fait une date, elle a posé le coude, elle a fait non mais.
vas-y Mélissa, vas-y.
Non mais attendez, donc Valentine, elle est donc connue depuis des années. Oui. Elle est dans le game depuis des années.
Oui.
Elle fait des op sponso pour des machines à laver, des trucs comme ça.
Des trucs assez inoubliables.
Elle connaît l'état du marché.
Ouais.
On sait tous qu'il y a beaucoup plus de vues que de commentaires ou de réactions. Et là, elle s'énerve, on sait pas pourquoi, elle s'est énervée tout d'un coup comme ça. Elle s'est juste, pour moi, elle s'est juste énervée.
Moi, je crois
ça. C'est juste, elle a fait une crise, elle s'est dit, oh là là, j'ai eu accès aux métriques de Instagram, comme tous les gens à ce moment-là. Et du coup, elle a fait une crise parce qu'elle s'est dit, ah merde. Parce qu'elle devait avoir plus de following sur Instagram que sur d'autres supports, peut-être. Ou plus aimer ce réseau-là, elle s'est juste vénère. Alors qu'en fait, ça fait des années qu'elle est un média, enfin, une entreprise, plein de choses, un business. Et elle réagit comme si elle n'était pas ça.
Elle enfonce une porte ouverte.
Oui, enfin, ou alors vraiment elle pleure pour en avoir plus. Tu vois, moi je me dis dans quelle mesure c'est pas complètement fake.
Ah, tu penses que c'est une stratégie marketing, toi?
Non, mais j'ai pas envie d'être dans un truc.
Il n'y a pas de mauvais buzz.
J'ai pas envie.
Livre d'Emery.
J'ai pas envie d'être dans un truc complotiste, mais je veux dire, ça fait tellement d'années qu'elle travaille dans ce, dans ce milieu-là. Elle sait très bien que ça fonctionne comme ça. Je vois pas comment tu peux t'énerver de ça en 2016, quoi.
En fait, tu peux pour une raison très simple, en fait. C'est juste que t'es conne. Non, mais c'est ça, hein. C'est-à-dire que.
Alors, j'ai pas envie de donner ce jugement-là, mais moi, franchement.
Ça veut dire qu'elle a rien appris. Si elle est depuis des années et qu'elle réagit comme ça maintenant, c'est qu'elle a rien appris.
Oui, c'est un constat. Fibre. T'es pas obligé de, tu vois.
Alors, plaçons les choses dans le contexte. Quelques semaines avant.
Oui.
Valoche a dit, vous auriez pas un poste de CM pour moi? Et donc, justement, on a dit.
Ça veut dire, elle cherchait un poste.
Un poste de community manager.
D'accord.
Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, à 404, ça a dit pourquoi pas elle, hein. Et ça a été rapidement validé.
Non. Tu as dit pourquoi pas elle.
J'ai dit pourquoi pas elle. Bon, ok. Peu importe.
Nous, après,
mais
on a rigolé.
L'idée, c'est que Kenza ou Babillage vont pas
qui
dire, je cherche un poste de CM. Donc, c'est-à-dire, c'est une personne qui était un petit peu en difficulté professionnelle, économique. Effectivement, elle se prend ça dans la tête. Et, effectivement, peut-être qu'elle s'est dit, et elle s'est dit, mais est-ce que les gens ne me lisent pas parce qu'ils me détestent finalement? Et enfin, moi, je le vois comme une expression de souffrance énorme. Hein. Ça a été, ça a été, et les gens l'ont aussi analysé.
Alors,
comme
est-ce,
ça. Hein.
Est-ce que justement cette expression de souffrance était très brute et, comme dit Sylvain, et je pense qu'on est d'accord, a été dit de manière très naïve. Mais est-ce que cette expression de souffrance très brute, justement, elle gêne pas les gens, puisqu'on n'est pas censé souffrir de ces likes et de, comme tu dis Sylvain, il y a une sorte de jeu de faux semblant qui est, bon, moi, je m'en fous de mon audience, mais,
c'est pas que ça.
Et que quelqu'un le dise de manière aussi crue, de manière aussi premier degré,
c'est ce que c'est pas ça. En fait, le truc, le fond de la chronique de Sylvain, à savoir on le fait tous, etc., c'est totalement juste. Par contre, son biais permettait de voir aussi une autre notion qui est celle de comment est-ce que tu prends, en fait, comment est-ce que tu acceptes une expression artistique ou comment est-ce que tu prends l'art de quelqu'un d'autre, comment, tu vois. Et quand elle dit, elle, que, en fait, machinalement, elle like 90% des photos qu'elle regarde, bah donc, c'est-à-dire que le like, il a plus de valeur. Si par défaut, tu likes toute ta timeline, c'est que, autant que tu likes pas, tu vois. C'est ça, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à quel niveau elle, pour elle, si tu suis la personne, tu dois liker. Et je trouve ça insupportable, en fait, comme façon de voir les choses, tu vois.
D'accord. En fait, du coup, elle, en voulant mettre en avant cette sorte d'affection ou de preuve d'estime.
Bah oui, du coup, tu perds l'intérêt de.
Dévalorise la fonction du like.
Il y a une énorme différence, c'est que nous, on fait un tweet, il n'a pas beaucoup de retweets, on verse notre petite larme, on a notre problème, on sent qu'on a une petite bite, je ne sais pas. Mais elle.
Fibre met des coups de poing dans les murs.
Excusez-moi, mais quand elle a peu de likes, c'est son business qui a un problème.
D'ailleurs, elle en parle.
Elle passe de être payée 3000 euros à 30 euros. C'est-à-dire que les gens vont lui dire, je suis désolé, vous n'allez pas pouvoir sponsor cette machine à laver parce que vous n'avez pas 2500 likes de moyenne par photo. Mais c'est un truc vraiment hyper froid que les gens disent.
Je ne pense pas.
Elle en parle dans son poste aussi.
Oui, mais dans son poste, elle a accès. Justement, dans son poste, elle le dit de façon très évasive en disant aussi qu'elle a accès au stade d'Instagram. Donc la marque, elle peut lui dire, OK, j'ai que 2000 likes, par contre, j'ai 25 000 impressions. Donc elle s'en fout.
Oui, mais elle dit quand même que ça met un peu en question son business. Elle le dit dans le.
Mais ça c'est son truc pour appuyer son propos en fait.
Le truc de base,
c'est qu'elle a les boules, c'est tout.
Moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est vraiment au niveau affectif et émotionnel et pas au niveau économique.
Et je pense qu'en plus les marques ont de plus en plus conscience de, enfin, en plus de plus en plus accès à ces chiffres et demandent des objectifs de plus en plus précis et que elle, en fait, elle est complètement débordée par ça et que je pense qu'elle a eu des facilités au début parce qu'il y avait moins de blogueuses, moins d'économies, que les marques étaient moins demandeuses et peut-être moins précise dans leur pitch et que maintenant c'est beaucoup plus codifié et en fait elle est complètement débordée, je pense qu'elle a été débordée par ça et qu'elle a réagi comme ça.
Et d'ailleurs pour mettre dans le contexte, on en parlait en préparant l'émission, il y a eu un article très sérieux sur le fait que justement les likes globalement surtout sur les grands comptes avaient baissé mais que c'était naturel parce que les gens s'abonnaient de plus en plus à de plus en plus de comptes comme tu dis Daz et qui s'abonnaient à de plus en plus de comptes et qui ne likent pas tout donc en fait le ratio following like, ça fait beaucoup de termes, devenait de moins en moins intéressant pour les grands comptes.
C'est clair que les usages ont changé et en fait, Valentine, c'est un peu une lame. C'est-à-dire qu'elle suit très très peu de personnes parce qu'elle veut lire toute sa timeline. Elle supporte pas de ne pas pouvoir voir.
Tu compares à Valoche.
Ouais.
On va l'appeler la moche.
C'est magnifique. Joli nom.
Et un futur, vas-y, Fibre, je viens après.
Est-ce que le grand péché de Valentine, ça a pas été d'avoir une analyse un peu trop basique de la situation, c'est-à-dire qu'elle a dit je n'ai pas assez de likes ou un, en gros, tu vois. Et en fait, tout le monde a ce problème-là. mais beaucoup de gens ont une réponse un petit peu sophistiquée à ça.
Ouais.
Et tout le monde, on va dire, est un peu plus élevé dans le game. Et quand on la voit comme ça, on dit, mais c'est bien elle, la super blogueuse, je comprends pas, tu vois. Ouais. Et c'est ça le problème aussi.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des commentaires très intéressants pour une fois sur son blog.
Bah, y a un truc surtout qu'elle a jamais fait dans son billet plaintif, c'est qu'elle remet jamais en cause son contenu, en fait. Elle dit que c'est de la faute de son audience, c'est pas de la faute de son
contenu. Les autres qui comprennent pas.
Ah oui, c'est vrai que c'est pas bête.
Oui, mais comme elle a plein de gens qui la
lisent. Non, mais en plus,
elle comprend pas le hate reading, tu vois. Elle voit pas la part.
Non, mais il y a pas que ça.
Elle sait que ça existe, mais je pense qu'elle a pas conscience de la part de hate reading.
Le hate reading, on en a parlé dans une émission précédente. Ouais. Donc c'est des gens qui suivent assidûment d'autres, mais parce qu'ils les détestent.
Voilà. C'est pas du hate reading, c'est du reading quand même, quoi.
Ouais. Un livre de Valentine. Parce que là, on prend le côté naïf du truc, le côté pureté. Oh là là, en gros, elle a pas de filtre entre ce qu'elle pense et ce qu'elle dit.
Elle est un peu comme ça de base.
Moi, je suis désolé, mais à un moment donné dans le billet, il y a un passage qui est absolument merdique, tu vois, où elle dit en gros, je préfère les gens qui agissent, j'aime pas les suiveurs, voilà, j'aime pas la passivité.
Je te dis, c'est de ça qu'elle a peur.
Si vous m'aimez pas, c'est que vous êtes passif, et j'aime pas les passifs, et vas-y, ta gueule. Sans déconner, je te like si j'ai envie. Enfin, il y a un commentaire dans cet article-là qui était ultra juste et qui disait en gros, Valentine, on n'a pas passé de contrat avec toi, ouais. On ne te connaît pas, tu ne nous connais pas, on se connaîtra jamais, on n'est pas tes amis. Ouais. Donc, si on a envie de passer ailleurs et de pas aimer ta photo, ben on l'aimera pas et puis c'est tout. Et t'as rien à dire à ça, tu vois. Parce que
c'est le commentaire disait tu likes pas forcément tous les gens qui te suivent. Ou
mais en plus, lui, il a très justement rappelé qu'à un moment donné, elle avait fait cette séparation entre ses lecteurs et ses amis.
Oui, bien sûr, c'est normal.
Voilà, en basant donc à un moment donné une lectrice qui voulait son, je crois que c'était son compte sur Nike Plus ou un truc comme ça, où elle lui dit excuse-moi, je ne le donne qu'à mes amis. Et donc après qu'elle vienne chialer comme ça en disant ben on est tous une grande famille, vous êtes.
Mais tu comprends, Nike Plus c'est que les amis, quoi. Elissa.
Le taré quand même qui a regardé tous les commentaires. Ouais, pour grave.
Moi j'ai tout lu.
T'es pointu dans le Valoche file.
C'est du journaliste.
Non mais il y avait un truc qui était très intéressant, c'était sa réaction finale qui était de dire je me casse d'internet.
Oui, bon, ça c'est la classique. Ouais.
Non mais classique et débile vu que la meuf dit je fais du business, j'ai besoin de vos likes, je m'en vais. Aucune cohérence quand même.
Je pense que le fait que vous pensez que Valentine soit ou maladroite ou bête ou mongolienne, ça c'est, je pense que il y a pas trop de débat. La question c'est la soulever quelque chose qui fait mal.
Fibre. Peut-être pour ouvrir le sujet, y a-t-il un renversement des valeurs, c'est-à-dire de même qu'il y a le pouvoir du consommateur, est-ce qu'aujourd'hui l'influenceur il est soumis au pouvoir du liker
et donc
il y a l'influenceur de l'influenceur, c'est-à-dire que 25 000 personnes peuvent changer le cours de la vie d'une personne.
Dire le cours de l'histoire quand même. Là, tu es allé loin, là.
Fibre 2017.
Le cours de l'histoire de Valentine.
Ouais, non. Boycotter les blogueurs, quoi.
Ouais,
boycotte un blogueur.
C'est-à-dire aujourd'hui il y a le pouvoir du consommateur qui se résume à simplement consommer un like. Mais qui est de fait très puissant à cause de ce biais de blog.
On va se retrouver avec des photos de profil sur Instagram toutes noires pour dire je like c'est pas je like la journée pas. Du non like.
Et du coup ma proposition d'un futur sans like, c'est sans bon. Indicateur.
Oui.
Vous en
alors
pensez quoi,
c'est
cet internet là.
L'internet du début en fait.
Bah, l'internet où tu peux produire du contenu, où tout le monde peut tweeter, tout le monde, il y a les réseaux sociaux, mais il y a pas l'indicateur de j'ai aimé, j'ai pas aimé.
Alors c'est vrai que c'était la fin de la chronique de Sylvain qui avait une propale intéressante. Seriez-vous intéressé par un réseau social sans possibilité de scoring? Quoi qu'il arrive, on ne voit rien.
On peut pas se mesurer.
On peut rien mesurer sur l'audience, le succès, la réception. On ne peut rien voir.
On peut répondre là tout de suite ou pas?
Oui, bien sûr.
Alors moi, je dis non, ouais. Parce que le
libre accro,
le like, bonjour, comme le capitalisme, fait beaucoup de malheur, mais fait légèrement plus de bonheur. Donc la balance.
j'ai compté. Le capitalisme a fait un tout petit peu plus de bonheur.
C'était le moment droit dur du futur de Fibre. Mélissa, est-ce que tu serais partante pour un? C'est même pas un slow consuming, c'est un pure consuming. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de notation possible.
Ouais. J'adorerais.
D'accord.
Juste pour voir la différence avec aujourd'hui où tout est mesuré.
Mais ça veut dire que les postes de Valentine arriveraient avec la même hiérarchie à toi que ceux de tes amis. Mais bon, ça peut être un autre problème.
Tentons.
Des trolls surtout.
Il y aurait des possibilités de repartager quand même les contenus qu'on.
Oui, mais pas de scoring.
Mais pas de scoring. Il y a des liens.
Si on peut pas savoir combien de personnes tu suis, combien de personnes te suivent, combien de likes, quelle audience, rien, pas de métriques possible.
Ouais, là vous faites tous les chevaliers du web, mais je sais très bien que ça vous casserait la tête.
Non, mais je pense que ce serait des heures très sombres.
Ouais. Pour le Moyen Âge.
Pendant quelques années, et puis après on serait tous apaisés, ouais, on serait tous bien zen.
Puis je pense que deux programmeurs de la FAQ tout à l'heure qui s'amusent à hacker Pokémon Go, ils bosseraient pas pendant 2 ans et feraient fortune en tout cas.
Ouais, je pense.
Ouais. Métriques pirates. Très bien. Allez, on attaque tout de suite la deuxième FAQ. On parle de confession intime.
J'ai rencontré, vu que je travaillais à l'aéroport, j'ai rencontré le gars qui a fait « Maman, j'ai raté l'avion ». Et du coup, il est aussi moche qu'en photo.
J'ai travaillé pendant 3 semaines sur un site de beauté féminine et je ne supporte plus le rose du tout. Absolument plus. Je veux plus voir de rose nulle part. Voilà.
Ouais, si, confession intime, je vais sur Pinterest pour aller chercher des trucs de menuiserie.
J'ai fait plus de 800 bornes dans une bagnole qui date des années 70 et qui que t'es pas sûr qu'elle va démarrer. Mais c'est une Mercury Cougar, elle est trop belle.
Le petit, j'ai la place pour aller dans l'eau avec mon appareil photo et en fait, tu tues le réflexe en te jetant à l'eau. Okay. C'est la petite confession intime douloureuse.
Ah. Voilà. Aïe.
Je me suis démis l'épaule en essayant de désenliser une voiture.
Bien joué.
Voilà. Mais je me suis quand même démis
l'épaule. La fragilité, quoi.
Et j'ai pas désenlisé la voiture. Il a fallu 6 Slovaques. Alors c'est pas juste une expression, c'est vraiment 6 Slovaques pour nous la sortir de là. On était complètement enlisés, on cherchait une corde pour se faire tirer par un 4x4. On voit 6 Slovaques sortir de l'eau, on était sur une plage, 6 Slovaques sortir de l'eau en 6 speedo. On leur a dit, vous auriez, do you have a rope to pull the car? Et ils nous regardent comme ça, ils font, a rope? What rope? We're 5!
Non, parce qu'en fait, je suis partie en vacances, et du coup, j'avais quasiment pas de wifi. Et du coup, j'ai quand même voulu consulter des trucs et j'ai dû répondre à un mail pro hyper important, très long, et j'ai passé beaucoup de temps à le faire. Et du coup, vu que j'étais que sur mon smartphone à taper au pouce, je me suis tapé une tendinite après. Une tendinite du pouce parce que j'avais
la
trop écrit,
quoi.
Mais après j'avais trop mal et je devais le reposer et tout. Ça faisait... C'est super douloureux une tendinite du pouce.
Les winners de 404.
J'ai marché 2 heures pour aller trouver un arbre en forme de bite et suivez-moi sur Instagram, vous pourrez voir la photo.
Mais oui,
si j'ai
oui,
pas 500 followers, je rentre pas de vacances.
Petite confession intime de l'été, c'est quand on est parti une semaine à Berlin et je dirais. Moi, j'ai essayé de rentrer au Berghain, donc on s'est fait un petit look un peu berlinois, un peu hipster chelou, et ça a pas marché, mais on était bien ridicule quand même.
Attends, on avait un câble USB autour du cou.
Ok, c'est un peu la honte. En gros, j'avais un mémoire à écrire cet été, et plutôt que de m'y mettre, genre sérieusement, j'ai binge-watché une des pires séries du monde qui s'appelle Pretty Little Liars, comme si j'avais 16 ans en fait, et j'ai regardé que ça tout l'été, genre d'affilée. Voilà.
Oh, c'est beau.
Super Nanny, je la kiffe.
Mon été, vu que j'ai pas pu sortir de Paris, j'ai passé mes vacances en Ile-de-France et j'ai fait des randos en Ile-de-France. Et c'est très triste.
La grosse win, hein, 404.
C'est l'Île-de-France. Enfin, ça reste l'Île-de-France quoi qu'il arrive, donc ça, c'est triste. Voilà.
Oh bah dis donc, auditeur fragile. Hein,
ouais, ouais. Voilà, ça a été compliqué fragile. L'été.
On a la communauté qu'on mérite. Hein. Tendinite du pouce.
Rentrer au Berghain avec
les Slovaques.
Déboîtage d'épaule avec des Slovaques.
Vous êtes content d'être rentré, quoi, 404.
Moi, je trouve que c'est des auditeurs qui nous ressemblent beaucoup. En tout. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique. Et c'est Daz qui va nous parler de musique.
Ouais.
Sujet numéro 3.
Faire de la musique ou développer un programme, c'est désormais la même chanson.
Mais c'est la même chanson, Daz.
Universal nous a quittés, fauchés dans la force de l'âge par un monde en mutation qu'elle n'a jamais pu comprendre depuis Internet. Universal laisse derrière elle Emmy, Mercury, Barclay, Philips et moult autres labels orphelins, fruits de coïts illégitimes ou incestueux, comme c'est l'usage dans les familles de droite traditionnelles. Universal, nous ne te jugeons pas. Universal repose en paix aux côtés de Dalida, Clo-Clo, Georges Moustaki et Jésus-Christ, notre sauveur. Bon, ok, je vais peut-être un petit peu vite en besogne. Universal n'est pas encore morte. D'accord. Mais dans le club des petits coups de couteau dans le dos, Franck Océan vient de débarquer avec un katana. Blonde, son dernier opus, est sorti sans major. Ça peut arriver. Mais ce qui fait de ce cas un inédit, c'est que Franck Océan a dealé directement avec Apple et sa plateforme Apple Music, foulant au pied 875 000 ans de martelage du mantra des majors qui stipule qu'un artiste seul a une espérance de vie inférieure à celle d'un lapin sur une piste de NASCAR. Le cas Franck Océan crée donc un précédent et pourrait donner le coup d'envoi de l'équivalent de la nuit des longs couteaux de l'industrie musicale. Ou l'ordre 66, si vous êtes plus fort en Star Wars qu'en histoire. Et les majors seraient les Jedi, si vraiment vous êtes nul en analogie. Et ça, c'est important parce que depuis la généralisation du haut débit dans les foyers, on nous bassine avec les changements du côté des consommateurs. Nouveaux usages, piratage, streaming, écoute éclatée, rien, j'avais juste envie d'entendre encore. Voilà. Alors, on parle des consommateurs, merci Alain, mais les artistes, eux, on n'en parle pas, ou alors uniquement négativement via le prisme de l'immobilisme, comme si tous les artistes étaient des fleurs en panique, les yeux constamment rivés sur le rétroviseur. Bon, lui, c'était pour voir si le fisc n'était pas derrière, mais vous captez l'idée. Alors qu'en 2016, et Franck Océan le prouve, les artistes ont beaucoup changé, à vrai dire. Plus je les regarde, les artistes, et plus je trouve qu'ils ressemblent à des footballeurs de deuxième division kosovar. Ah non, pardon, je regardais PNL. Non, les artistes, plus je les
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Garde, et plus je trouve qu'il ressemble à des développeurs, en fait.
Ah, pourquoi des développeurs?
Ben, prenez Kanye West.
Ah.
Avec son album The Life of Pablo, sorti cette année, donc en février, le mec a inventé un truc. Alors Kanye, lui, c'est Kanye, donc il parle d'expression créative vivante, respirante et changeante. Ok, cool. Chez nous, on appelle ça une version bêta. Le gars a inventé l'album en version bêta. Jamais fermé, jamais fini, Kanye se réserve la possibilité de le patcher. Changer une basse par-ci, un hi-hat par-là, modifier le mix, ajouter des instruments, retirer un artiste, découper un titre différemment. Cette approche semble complètement étrange aujourd'hui pour nous autres, mais sera considérée comme évidente d'ici quelques années. L'artiste, là, il a la main sur le processus créatif, y compris quand sa création lui échappe, qu'elle a quitté le studio et qu'elle se retrouve chez le consommateur. Et ça, ça change tout. Revers de la médaille, avec un jeu vidéo par exemple, les versions piratées sont jamais maintenues. Et ben avec l'album de Kanye, c'est la même chose. Donc la version la plus téléchargée sur les torrents, c'est la version 1, celle de février en fait. Pas celle qu'il a mis à jour 3 fois depuis. Bienvenue chez nous Kanye. L'autre emprunt de la musique au monde du développement informatique, c'est les hackathons. Vous savez, ces sessions qui permettent à plusieurs développeurs de mettre en commun leurs ressources pour produire un jeu ou une application en un temps donné. Eh ben, la même méthode est utilisée intensivement par les Manitou de la pop pour produire des hits imparables, qu'on soit au Chili ou au Bélouchistan oriental. En musique, cette technique, ça s'appelle pas un hackathon, ça s'appelle, ou un hackathune, ça serait pas mal ça. Ça s'appelle un track and hook.
Track and hook.
Ouais, ça a été théorisé par John Seabrook, qui l'a présenté, en fait, dans son livre, qui s'appelle Hit, enquête sur la fabrique des tubes planétaires. Le processus créatif, donc, que lui décrit, il est vu comme une usine de montage ou d'assemblage avec plusieurs postes sur lesquels bossent des gens en parallèle selon leur spécialisation. Donc, il y en a qui sont spécialisés sur les refrains, d'autres sur les couplets, d'autres sur le pont. Et à la fin de la session, ils combinent tous les éléments qu'ils ont créés les uns avec les autres jusqu'à trouver un truc qui marche bien.
C'est fou.
Eh ouais, les ICO s'appliquent le bon vieux change un truc et regarde ce qui se passe. Alias la méthode de base chez tous les programmeurs. Méfiance néanmoins parce que si cette méthode empirique a permis de produire des hits interstellaires comme Diamonds ou Umbrella de Rihanna, c'est aussi cette méthode qui a donné les diplodociraptors tout pourris dans No Man's Sky. Faut faire gaffe quand même. Mais quoi qu'il en soit, sale temps pour l'artiste maudit, génie isolé cultivant sa misanthropie dans son chalet des Alpilles, en jouant de la contrebasse sur sa terrasse en regardant un faucon pèlerin tourner au-dessus de lui, puisqu'un rapport de Hit Deconstructed, qui date de 2014, montrait que 90% des tubes sont composés par 2 personnes ou plus, et que 50% des tubes sont composés par des groupes de minimum 4 personnes. Ouais, donc en gros, si tu composes seul, t'es pas bien. Autre parallèle avec le jeu vidéo, PNL, encore eux, a sorti 2 versions différentes de son album, dans la légende. Une version rose et une version orange,
oh,
comme
mignon.
Les Pokémon, ouais. Hormis la couleur, 0 sucrerie en plus côté packaging, juste un titre bonus spécifique à chaque version. Et uniquement dans la version physique. Prêt en digital. Attrapez-les tous. Et ouais les gars, ou plutôt ouais. Alors, comme à 404, on aime le futur et qu'en général on tombe plutôt juste, sauf Fibre Tigre, regardons ensemble l'avenir qui nous tend les bras si la tendance actuelle persiste. 2017, premier patch Day One qui modifie totalement un album le jour de sa sortie.
Ça c'est No Man's Sky.
Toujours 2017, l'ONU vote à l'unanimité le versionnage obligatoire des albums après la 70e modification de Life of Pablo par Kanye West. 2018, release note complète obligatoire à chaque mise à jour pour que les auditeurs puissent s'y retrouver. Toujours en 2018, notification d'une mise à jour disponible pour un album donné sur votre téléphone qui vous propose de le télécharger. 2019, 11 versions d'un même album à sa sortie. Original, Deluxe, Ultimate S, Pro, Slim, Plus, Premium, Premium Plus, Premium Pro, Premium Deluxe Ultimate.
Et Gotti.
C'est le disque d'or, ça.
2020, arrivée des succès, donc des achievements à débloquer quand on écoute un artiste. 2021, arrivée des contrats de licence d'utilisateur final, donc les CLUF, à valider avant la première écoute. 2025, mise en place des Season Pass et des DLC pour Legend of Rodrigo ou Rodrigo no Densetsu, l'album expérimental de Kanye West. Rodrigo no Densetsu. Et 2028, arrivée du GitHub de la musique où le public peut carrément soumettre ses arrangements, remix ou nouvelles instrus que l'artiste peut décider d'intégrer ensuite dans sa release ou que les éditeurs peuvent décider de compiler eux-mêmes. Ce qui, au passage, permettrait de se réapproprier très justement le terme compilation, ouais, traîné dans la boue par les majors depuis 25 ans.
Ah, bien.
Qu'en pensez-vous?
Bien, j'adore. Qu'en pensez-vous? J'adore, je veux le GitHub là tout de suite.
Mélissa veut le GitHub.
Idée, hein.
Ouais.
C'est une très très bonne idée.
C'est trop bien.
C'est marrant parce qu'on rigolait et plus les dates passaient, plus on disait bah ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais, 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 ouais.
Ouais, 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 ouais,
ouais, ouais, ouais. Du coup, est-ce que vous êtes déjà, juste pour revenir au présent et à, on va dire, l'époque Pablo, l'année Pablo, donc celle de Kanye West, dont on a beaucoup parlé, donc au-delà des qualités ou des défauts de l'album, on a beaucoup parlé de cette, de ce côté vivant, et de ce côté non fini de l'album, qui, même s'il est disponible, il est là pour et évoluer. Ça excite beaucoup de personnes de se dire, je vois qu'un artiste continue à travailler sur son album après, et c'est hyper intéressant. D'autres disent, c'est débile, et puis en plus, je sais plus si la chanson que j'écoute, c'est la dernière à jour ou la bonne version et tout, et c'est le même casse-tête que pour des apps. De quel côté de Kanye West vous mettez? Est-ce que vous mettez à droite de Jésus, ou est-ce que vous le poignardez dans le dos? Parce que Kanye West c'est Jésus évidemment.
Moi je suis mitigé parce que le problème c'est qu'il sort un album pas fini mais il le vend au prix d'un album fini quoi.
Ouais mais du coup tu
oui, mais c'est une fois c'est un season pass quoi.
Ouais.
Ouais alors que non,
c'est pas season pass parce
early bird.
Un season pass c'est que tu dois repayer encore
pour avoir. Ah oui tu repayes encore.
Là tu le payes et puis t'as les suivis on va dire. Donc toi ça te dérange de se dire qu'il a sorti un album?
Ouais, il faudrait qu'il propose plusieurs systèmes de paiement, tu vois, un Patreon,
un Tipeee.
Alors non, moi je trouve ça génial perso, je trouve.
D'accord.
Je trouve vraiment ça génial.
Oui, Sylvain, plus bof.
Ouais, moi j'aimerais bien payer le même prix qu'une app quoi, tu vois.
Ah, ça c'est autre chose.
Ah ouais, d'accord.
Et puis après tu payes tes mises à jour.
OK.
Ouais, c'est pas encore
mais juste sur le cas de l'album de Kanye West et la manière dont un artiste aujourd'hui sort et suit son album et le fait évoluer,
c'était pas encore très bien optimisé. Mais, d'accord, de fait, il a compris qu'il fallait faire parler de lui pendant 6 mois et pas seulement au mois de février.
C'est vrai, Mélissa a raison.
C'est
là-dessus.
Parce que souvent, les gens, bah, pour Frank Ocean, il a teasé pendant.
Ouais.
Il a teasé.
Moi, j'ai l'impression qu'on entend plus
parler
de lui du tout.
Alors que Beyoncé, elle a droppé son truc comme ça en faisant leur boum, un film et un album. Salut les mecs.
Frank Ocean, il a pas teasé en fait.
Ouais, mais il a fait attendre,
qu'il sorte un truc, quoi.
Et il y a eu des rumeurs et machin, et en fait, non. Enfin, tu vois, oui, il a compris un truc. Par contre, c'est pas encore fait pour nous.
Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de faire vivre son album encore pendant plusieurs mois derrière.
Avant, bah, il sait qu'il y a non, mais il y a tellement d'artistes justement qu'il est obligé de vivre comme les autres, même si c'est Kanye West.
Parce qu'avant, c'était des tournées qui continuaient à faire vivre un peu un album pendant un an, la tournée qui suivait l'album, et maintenant, effectivement, on a des mises à jour. Aussi, ouais. Fibre qui est resté très silencieux.
Alors, je suis à droite, bien sûr.
À droite de Jésus ou à droite du futur?
Mais ouais, mais j'écoute, je tape symboliquement sur la table. Franchement, la tête de pont d'Universal, c'est Aznavour vendu en kiosque en petit bout. Ouais. Je veux dire, c'est insupportable de ringardise. C'est complètement nul. Et je vais vous dire quelque chose. En France, pas à l'étranger, pas en Europe, mais en France, quand vous voulez travailler avec un musicien,
ouais,
c'est une prise de tête infernale. C'est-à-dire que vous allez voir un graphiste, vous lui dites je veux un dessin, il vous fait un dessin. Vous allez voir un musicien, vous dites je veux une musique, il vous envoie son avocat et on discute. Les droits SACEM. Et si vous voulez, s'il dit je veux pas utiliser la SACEM elle vient quand même. Il dit non mais attendez, vous avez pas le droit. Hein.
C'est le moment où Fibrotic, au lieu de participer au débat, raconte sa vie, hein, bien sûr.
Mais ouais, mais attendez, enfin moi,
en gueulant.
Non mais je veux dire les majors.
Juste là, roule des yeux derrière.
Non mais les majors, ils ont empoisonné. Ils ont empoisonné. Et Dieu merci, il y a une sorte de résurgence qui vient un petit peu du jeu vidéo. Parce que, le jeu vidéo lui-même avait pris exemple sur la musique parce qu'on fait ce qu'on appelle les game jams dans le jeu vidéo. Mm-hmm. Donc, jam, ça vient de la musique. C'est on se réunit ensemble, on travaille ensemble. Et maintenant, c'est revenu dans la musique. Tant mieux. Ça donne beaucoup d'espoir et j'espère qu'on va avoir des chouettes trucs, des super morceaux, des évolutifs, surtout du marketing et on sort un petit peu de ces momifiants, ces trucs.
Mais est-ce que pour revenir à la question de départ,
oui, j'approuve ce modèle. C'est super. Ouais, bonjour, c'est le futur, ça me donne
bonjour,
espoir.
Bonjour, je suis Fibre Tigre et j'approuve ce modèle.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que du coup, vous approuvez ce modèle? Et ensuite, sur ce que Daz a proposé,
parce que c'est vrai que le jeu vidéo a des, c'est très protéiforme, la manière dont il est diffusé, il est entretenu, il est mis à jour, il est vendu, il est revendu. Est-ce que c'est un modèle que vous accepteriez dans la musique? C'est-à-dire, on parlait d'un season pass, c'est rigolo de dire un season pass parce que c'est bête, mais est-ce qu'on se dit effectivement,
ça arrive,
j'ai un album, j'ai 16 chansons dans mon album, mais on pourrait même parler de la notion d'album qui disparaît, mais j'ai un album, j'ai 16 chansons, j'en ai encore 8 qui étaient en préparation, si vous payez un supplément, tous les deux mois, je sors.
Ça, c'est un DLC, ouais.
Mais c'est complètement cohérent quand t'aimes Björk. Tu écoutes tout Björk.
D'accord.
Et donc, c'est cohérent de dire, cet artiste, c'est un coup de cœur, c'est un grand artiste. Et même les trucs de merde qu'il y avait, je veux les écouter parce que ça va m'enrichir sur lui et sur le reste.
D'accord.
Donc, c'est complètement cohérent.
D'accord.
Oui, mais en même temps, on consomme énormément de playlists. Et donc, en fait, les albums, d'un coup. En fait, moi, j'en écoute beaucoup moins qu'avant.
Ouais, c'est vrai.
Je vais plus acheter des CD à la Fnac.
Là, on attaque un autre problème de fond qui fait que l'album a disparu, la forme de
j'écoute des artistes que je connais pas via les playlists qui sont générées par des algorithmes de Spotify et de Apple.
Ouais.
Et en fait, j'écoute plus les albums. Très bons algos, très bien optimisés pour le coup. Et ça fait que ces albums-là, en fait, on attend plus les albums autant qu'avant. Ouais. Vu qu'on sait qu'ils vont finir par arriver à nous dans une playlist.
Pensais aussi, jusqu'à ce que je vois l'engouement autour de Frank Ocean, parce que moi, franchement, cet artiste-là, j'étais passé à côté quand même.
Oui, mais ça dure 15 jours. Là, c'est retombé.
Ouais, mais je veux dire, c'est. C'était fou, quoi.
De la musique.
Ouais. Non, parce que l'album est bon, contrairement au jeu.
Donc, quand de la musique générée de manière.
Procédurale.
C'est ce que j'allais dire. De toutes les propositions de DAS, j'achète, sauf la musique procédurale, ça, je pense.
Non, mais ça arrivera pas.
On va retrouver avec des plutôt catarus, là.
Et 4 ans de retard.
Et en fait, finalement, je suis assez étonné, en fait, qu'on en soit encore là dans le genre de disruption de l'album avec Kanye West, parce que franchement 2016 pour faire ça, c'est-à-dire exister pendant 3 mois,
mais parce que c'est un peu jusqu'à long, en fait. Jusqu'à présent les majors, donc Universal en particulier, parce que c'est quand même un des 3 grands qui trustent le marché, font tout, mais absolument tout, pour qu'on reste sur le paradigme à l'ancienne de j'achète mon CD au magasin.
Mais c'est dingue que ça ait tenu autant avec un truc qui est aussi téléchargé.
La plateforme Apple Music Store, donc iTunes. Pendant ultra longtemps, le paradigme c'était j'achète mon album et je passe à la caisse. Je veux dire, ils proposaient rien de plus que, enfin même t'avais moins parce que t'avais même pas l'album physique dans les mains. Et pourtant tu le payais le même prix. Je veux dire, là le fait que Frank Ocean décide d'enjamber tranquillement la major en allant voir la plateforme de distrib, en dealant avec, parce que Apple l'a payé pour dire on vous veut chez nous, faites votre album, on vous aide à le produire et on le release sur Apple Music en exclu.
Et ça, merci Apple. C'est
génial.
Merci Apple, parce que Apple, ils ont contourné le major, comme ils ont contourné les majors du jeu vidéo et on accepte les indés. Ils créent une vraie scène indé vivace.
Mais est-ce qu'Apple ne devient pas le nouveau major? Maintenant qu'il y a des batailles, on voit que des mecs sont chez Tidal, des mecs sont chez, enfin pas Spotify parce que Spotify refuse, mais des mecs vont chez Apple Music, des mecs vont chez Pandora.
Tant mieux, ça fait plus d'argent pour l'artiste.
Oui, mais on se retrouve encore avec des histoires d'exclus. Justement, la musique comme un programme, c'était censé être un peu la liberté.
Après, je dirais que c'est à l'artiste de dealer son truc. C'est-à-dire que là, si Apple te propose, toi, en tant qu'artiste, d'être la seule plateforme à hoster ton contenu, c'est à toi de dire, ben non, parce que je me coupe de vente. Donc, ok, pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est ce que Frank Ocean a fait. Et là, maintenant, l'album Blonde, il est sur Spotify.
Surtout,
Alors, deux,
c'est plus une guerre des majors, en fait, c'est une guerre des plateformes.
Ouais, c'est tout à fait. Ouais. Sauf que le truc rigolo, c'est que dans une newsletter là que j'ai vu passer sur un mec justement, un insider du milieu de la musique, lui, il disait que les majors maintenant veulent supprimer totalement ces notions d'exclusivité. Alors que jusqu'à présent, ça les dérangeait pas. Ouais. Et donc là, ils sont en train de se dire, ok, il faut absolument qu'on trouve un moyen de rebondir, de faire autre chose, de nous en sortir.
Les majors, elles avaient la mainmise sur les radios. Qui aujourd'hui écoute la radio, c'est inécoutable avec la publicité. C'est un exemple terrifiant. J'ai fait ça en province cet été. Non, terrible.
La radio.
Le mec, il est obligé d'aller en province.
La vie des fibres. On voit de quoi il parle, mais en même temps, on se dit, mais il y a un truc qui est déformé dans sa vie. Il y a un enfourchement de dimensions parallèles. Deuxième point, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu sur le débat.
Je tiens à parier sur la musique procédurale. Moi, je pense qu'en 2019, je reviens et je vous dis la musique procédurale c'est top. Je tiens le pari contre qui veut.
Du coup, on parle de création de musique. Tu parles de musique procédurale, mais Daz parle aussi des hackathons de musique maintenant, la manière dont on développe un album comme on développe une app.
Ça veut dire qu'on met des
développeurs front-end, des développeurs back-end, des spécialistes en infrastructure, des graphistes de l'UX, etc. Et on remplace ça avec des spécialistes du hook, des mélodies, de la basse, des couplets.
C'est ultra triste, en fait.
Et on les met ensemble. Donc Rihanna est un des cas qui utilise le plus cette méthode. Et Sia est une des auteurs les plus connues de cette formule. On les met ensemble et c'est parti. On turbine, on sort des protos, des itérations dans tous les sens. sens, on combine des idées, on trouve...
Mais ça uniformise ta musique, quoi.
Et on sort avec un album au bout de 2 semaines.
Ouais. Alors un album qui va marcher, parce que justement, il parle tellement à tout le monde qu'il parle à personne, donc ouais. Tout le monde peut l'entendre, et justement... Moi, ce que j'aime dans la musique, c'est de me dire qu'il y a des albums qui sont absolument inécoutables pour un Russe parce que c'est pas dans leur culture et que ça leur parlera jamais.
Là,
en fait.
Là-dessus, t'es pas d'accord sur cette méthode?
Non, moi, non, parce que je trouve que c'est, tu sais, c'est le nivellement, quoi. C'est Ikea. Voilà, ouais. C'est tout le monde fait le même album, tout le monde a les mêmes ingés, tout le monde.
C'est un peu l'histoire de la pop, ça, enfin de.
Ouais. L'autotune.
Sauf que dans la pop, c'est quand même. Je crois que c'était plus des gens qui construisaient des maquettes.
Ouais.
Donc plus complète. Il n'y avait pas un morcellement tel qu'aujourd'hui.
Il n'y avait pas cette méthode, mais il y avait quand même ce nivellement où.
Oui.
Bien sûr, parce qu'il faut que ça fonctionne. Mais je veux dire, la pop, t'avais par exemple un mec qui écrivait, tu vois, qui était reconnu pour ça et qui lui s'entourait tout le temps des mêmes tu vois du même ingé son ou qui proposait ses musiciens qui tournaient avec lui etc et du coup t'avais la patte, t'avais une couleur, tu vois, quand Jean-Jacques Goldman il écrit un album pour Johnny Hallyday, bah tu sens que c'est Jean-Jacques Goldman qui est derrière, ouais. Tu vois, alors que là en fait c'est des mecs tu les connaîtras jamais à part Sia, ouais, parce que sûr. Parce que c'est une exception, mais je veux dire t'as des gens, t'as des hommes de l'ombre un peu comme Will.i.am, ouais, tu vois, sûr. Avant qu'il soit sur le devant de la, ouais. scène, qui marne en coulisses et qui te sortent en fait un nombre incalculable de trucs, et tu te dis quoi, et c'est ce mec là qui a fait tout ça,
qui te sort des, ouais. Des bouts de choses, des éléments, quoi,
des refrains. Il y a des types, justement il parlait de Kanye West avait participé à un truc, le mec il s'est juste pointé, il a changé une basse, quoi. Non mais sans déconner, tu vois, c'est-à-dire que
il morcelle
le truc comme une équipe de foot américain, c'est-à-dire où t'as 50 joueurs tous sur un rôle spécialisé.
Moi, je trouve
on les fait rentrer 4 secondes,
ça fascinant en fait.
Toi Sylvain, t'es plus fasciné que ça?
Ouais, je suis fasciné,
c'est son côté aventureux.
Je sais pas si ça donne des très bons résultats, mais c'est fascinant de voir qu'on est arrivé à une efficacité pareille en 2 semaines, on est capable de sortir un album avec plein de spécialistes. C'est un peu comme
surtout des hommes très,
c'est la communauté de l'anneau, quoi, tu vois, c'est Gimli, ouais. qui arrive avec sa hache, c'est, tu vois,
t'aimes bien le côté, t'aimes bien le côté hackathon en général,
ouais, ouais, en fait c'est ça,
même si c'est pas de la pop musique. Imaginons Das qu'on fasse un album, je sais pas, pointu de hip hop ou de folk etc avec des artistes mais avec le même système qui est,
non mais c'est ce système,
on fait comme Sylvain, on va dans un camp dans l'Oregon, on est autour du feu machin, on a des guitares,
les trois quarts,
les trois quarts des albums de rap qui ont été produits à la fin des années 90, quand il y avait, c'était, ouais. l'âge d'or et qu'il y avait de la thune de partout,
ouais.
ils étaient créés par des mecs qui s'enfermaient dans des chalets avec 3-4 beatmakers et 15 rappeurs, tu vois, ouais. et ils faisaient des compiles, des machins, des trucs.
Comme quoi, tu vois.
Mais ce qui marche bien là-dedans, c'est que le processus créatif, c'est que t'as un beat qui est fait par un beatmaker.
Ouais.
T'as pas un beat qui est fait avec un gars qui ramène les percussions, un type qui ramène une nappe de synthé derrière, un autre, ouais. type qui, tu vois, ça c'est, ouais. je veux dire, si tu fais ça tout le temps pour tout, bah tu perds la spécificité, ouais. de ta musique.
Mais Mélissa, toi qui écoutes beaucoup de musique, est-ce que ça te touche de savoir comme la musique a été faite?
Ah bah bien sûr. Mais ça s'entend. T'as des albums où t'entends le, enfin plus maintenant, mais où t'entendais les bruits des studios, quand c'était des vieux studios où c'est mal enregistré. Et ça, maintenant, c'est tellement, il y a des albums, la production, elle est tellement lisse, tu te dis genre, ouais. mais putain, c'est chiant, quoi. Donc, c'est vraiment plat. Et Rihanna, j'ai vraiment du mal, hein. Genre, ouais. j'y arrive pas, quoi.
Ah, tu comprends que, enfin, Diamonds ou Umbrella, ça marche, quoi. C'est vraiment.
Ouais, tu comprends que ça marche, mais vraiment, moi, ça me passe dessus, quoi. C'est, ouais. vraiment ce que tu disais, ça. Alors,
Donc toi, t'es un peu comme les gens qui mangent bio, éthique et local. Mais non. La traçabilité, ouais. de l'aliment et du storytelling.
Tu vas entendre le bruit de la cabane qui craque, tu vois, derrière.
Tu veux la pourriture sur la salle, tu veux la terre.
Je veux la terre.
Fibre, pour finir.
Moi, je pense que ça peut marcher,
ouais.
parce que ça marche dans un autre domaine que je connais bien, les jeux vidéo.
Bah oui.
Donc, dans les jeux vidéo, tout est hyper morcelé, et pourtant, on a des œuvres qui ont beaucoup de personnalité.
Qui ont la cohérence.
Alors après, il y a des Minecraft, il y a des Harvest Moon, il,
ouais.
y a des jeux qui sont faits par une seule personne
à l'ancienne.
Il y a des
Outzer.
Mais il y a des...
non, mais aujourd'hui, il a sous-traité au Belouchistan.
Non, c'est pas ça, mais disons que ça marche très bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans la musique. Et il faut dire aussi que ce n'est pas... de 15 mecs qui se réunissent et qui font pondre un truc en 2 semaines. Souvent, les mecs, ils réfléchissent genre 3 ans avant.
Oui, ils ont
leur souffrance, ils arrivent avec leur bagage, leur expérience, tout ça. Ils disent, bon, c'est quoi, on va parler de ça. Et il faut pas oublier que quand il y a plein de petites mains à la base, tout ça, qui sont complètement morcelées, il y a souvent quand même des intermédiaires chefs d'orchestre et un méta chef d'orchestre qui dit, bon, on va la faire comme ça, un peu vénère, ouais. tu vois.
Oui, donc, c'est vrai.
Oui, il y a un directeur de projet quand même.
Il, ouais. paraît que Rihanna, des fois, regarde ce qui se passe.
c'est ça que je vais chanter. Okay,
on,
bon.
Demandera à Rihanna, on enverra un DM à François Hollande. On verra un DM à... Allez, on attaque tout de suite une nouvelle FAQ et on vous demande justement ce que vous avez écouté cet été.
FAQ. La FAQ.
J'aurais aimé écouter plus de podcasts, mais je sais pas pourquoi tout ce qui est création sur Internet, ils se sentent obligés de faire une pause estivale comme s'ils étaient à la télé et de faire une rentrée en septembre alors qu'on s'en fout, on est sur Internet, on fait ce qu'on veut.
Vrai.
Donc j'aurais aimé écouter plus de podcasts, mais du coup je me suis
rapatrier sur la musique un peu plus.
J'ai beaucoup aimé le nouvel album d'Agnès Bill.
Le dernier album de Chance the Rapper.
Alors j'ai pas mal aimé des nouveaux artistes genre Electro Deluxe et Esmos. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est cool. Non.
Alors j'écoute énormément de podcasts, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour travailler. J'écoute des podcasts à gogo, donc pendant tout l'été j'ai écouté, je me suis refait tous les podcasts d'Exocet. Et je les ai tous écoutés en l'espace d'une semaine et demie. Et en fait j'écoute et je suis toujours en rade de podcasts. Bon, les studios 404, je les ai tous écoutés.
Non, une chanson, L'Appuntamento de Ornella Vanoni. C'est une chanson italienne que tu peux entendre sur la BO de la BO de Ocean's 12, je crois. C'est une vieille chanson italienne.
J'ai écouté beaucoup de classiques, du coup, sur Spotify. Ma petite BO de l'été, genre du Beatles, du Queen.
Ah d'accord, classique. Ce classique-là. Ce classique-là.
Okay. Après, j'ai découvert aussi L.A. Priest, qui est un artiste qu'une pote m'a fait connaître. Et c'est de la musique un peu expérimentale, mi-électro, vraiment avec des vrais instruments. Du coup, c'était plutôt cool. Et après, j'ai écouté des podcasts pendant toutes les vacances parce que je me faisais un peu chier avec mes parents. Donc du coup, voilà. Je me suis fait pas mal d'apéro du Captain que j'avais en retard. J'ai réécouté un peu de Studio 404. Un peu de Fucking Kermesse aussi que j'avais déjà écouté auparavant et beaucoup de podcasts France Inter genre sur les épaules de Darwin pour m'endormir le soir. Voilà.
Podcast, j'ai écouté là c'est les vacances du coup t'écoutes les habituels quoi, tu fais pas trop de recherche en mode pète détente. Donc j'ai fait Super Gamer Side, très bon podcast, très bon podcast des mecs du Nord là, grave cool. Sur le jeu vidéo. Henri Michel, Rivière à détente. Franchement, autour d'un barbecue, il y a un connard qui te raconte des trucs. Tu fais qu'est-ce qu'il me raconte des fois, tu vois. Du coup, c'est cool, tu vois. Vraiment, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup.
Barbecue avec tes écouteurs.
Spécial Japon, putain. Quelle escroquerie, hein. Quelle escroquerie. Ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est cool. C'est quoi en vrai? C'est pas quand je sais pas s'il a fait un truc. Mais ouais, non. Podcast, c'est beaucoup de sons. Je suis passé à Google Music. Et je kiffe bien.
Ouais, j'ai écouté des podcasts cet été parce que j'en écoute toute l'année, en fait. Et je suis bien les podcasts de France Inter, là. Du coup, j'écoutais. Ça peut pas faire de mal. J'écoutais ça en allant au travail parce que je travaillais le mois de juillet et de août. Voilà.
Alors cet été, honteusement, j'ai beaucoup écouté Panda Designer. Et sinon, après le dernier album de Cassius, et j'ai été à un concert de Caravan Palace. Du coup, je me suis refait tous les albums.
Malheureusement, je dirais Blonde de Freak Ocean, mais c'est surtout pour l'attente et pas forcément pour la musique, même si j'ai aimé, mais j'étais très content de l'entendre.
Castor Flutter. Et ouais, Casseur Flotteur, très grosse découverte live. Ouais. Sur scène, énorme découverte live. Ouais, énorme. Je connaissais à l'écoute Spotify, tu vois, sur internet, ouais. Mais en live, incroyable.
Non, en fait, j'aime bien écouter des trucs nuls, ouais. Et ça me fait rire, et ça met de bonne humeur. Ouais. Du coup, non, j'écoute beaucoup mon style de Kemar. C'est une vidéo de Kemar qui est complètement con, mais qui est très drôle. Et oui, voilà. Et en fait, qui à la base fait 50 secondes. Et il y a des gens qui se sont amusés à la mettre en boucle pendant, je sais plus, 50 minutes.
Oh, dur.
Et du coup, je mets ça chez moi et ça me fait rire. Sinon, j'écoute des playlists de musique, pas classique.
Chanson, il y avait pas mal Her avec Five Minutes, des choses comme ça. Je sais pas si vous connaissez un groupe un peu français, mais qui fait beaucoup de l'anglophone. Assez sympathique.
Comme tous les groupes, quoi.
Une découverte aussi de l'été, assez tôt dans l'été, c'était Fantastic Negrito, qui est pas mal.
J'ai redécouvert les Red Hot Chili Peppers avec leur dernier album. Ouais. On retrouve un petit peu certains de ce qu'il y avait avant, un petit goût d'avant, et il est vraiment pas mal. Et notamment, on varie dans les rythmes et dans les chansons, et c'est ça qui est cool.
Cet été, j'ai écouté énormément Loyal Carner, c'est un rappeur anglais.
Vu que j'ai passé une grosse partie de mon été à Paris, du coup j'ai écouté Riviera Détente. Ah, et ça détend. Ça détend avec Henri Michel. Et j'en profite pour faire de la pub pour sa petite histoire qu'il a postée sur Vice, exactement. La guerre du goût, qui est extrêmement drôle.
Oui, c'est très marrant.
Très très bon, ouais.
Et voilà.
Bon, on finit sur un truc qu'il n'a pas écouté mais qu'il a lu. Mais Henri Michel revient beaucoup quand même. Hein.
Ouais, beaucoup d'Henri Michel.
Pour quelqu'un que notre communauté est censée détester et qui est censée nous détester.
C'est les 4000. C'est les 4000.
Ouais. Bon, on est d'accord, hein, le spécial Japon de Rivière Détente est une arnaque totale, mais un délice à écouter. Allez, on attaque tout de suite la dernière chronique et Mélissa va nous parler d'éco intérieur.
Ouais.
Sujet numéro 4.
Internet nous a ouvert toutes les fenêtres pour finalement nous enfermer dans un salon IKEA.
Oh là là, déprimant comme nos auditeurs.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Mélissa? Qu'as-tu découvert?
J'ai découvert que nous vivons dans un pré-futur.
Ah, quel prod, ce mois-ci.
Lorsqu'on a fait tourner nos premiers modems au début d'Internet, nous avons ouvert les portes d'un monde inconnu. Internet a changé nos vies. On a parlé à plein de gens, on a chopé, on a regardé des photos de maladies horribles, on a tradé sur des forums complotistes. Bref, tout était possible. Aujourd'hui, on a tous plus de 30 ans. Bon, ok, pas Sylvain. Et on a construit un Internet aseptisé. Voilà, c'est moche, le constat est là. Donc on est comme dans un vieux couple, on a pris nos petites habitudes, on est pépère, on a nos sites favoris, nos réflexes d'appli à utiliser, les réseaux sociaux, on dépassait le milliard d'utilisateurs, bref, Internet est devenu mainstream. Et quand quelque chose marche, bah tout le monde veut copier. À tel point en fait que les réseaux sociaux et les sites qu'on utilise tous les jours, bah en fait ont influencé notre espace de vie, ont changé notre espace de vie, je veux dire la vraie vie, celle qu'on a là, là où on aide au tank, avec nos canapés IKEA. Bienvenue donc dans l'airspace.
Dans l'airspace.
Ce pré-futur flippant, une presque dystopie qui se déroulerait dans un espace entre le coffee shop, l'espace de coworking et le concept store. Beaucoup de mots en con.
Chez Sylvain Palais, quoi.
Chez Sylvain Palais. L'airspace, c'est un monde aseptisé qui aime trop Apple, Airbnb, Foursquare. Espèce de bienvenue à Gattaca, mais qui se la jouerait cool.
Ouais.
Bon, alors le concept d'airspace, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un article de The Verge que je vous incite tous à aller lire.
Un petit blog sympa, The Verge.
Un petit article de 10 000 signes comme je les aime, qui a été publié au milieu de l'été, comme ça, et qui, en fait, je l'ai lu, mais je me dis, mais oui. c'est notre monde. C'est notre monde détente, sympa, pratique, trop facile, la vie. En fait, ce que ça m'a frappé, parce que, au moment où j'écrivais cette chronique, il y a donc 2 jours, j'ouvre Instagram, parce que procrastination oblige, hein, forcément.
Bah oui.
Et là, je tombe sur la photo d'un pote qui est exactement la même que celle que j'ai faite 15 jours avant à Grand Train. Là où on a fait notre fête 404 qualité début septembre. Son commentaire disait « Ce soir, je suis DJ à la gare de Maubeuge ». Alors, je posterai la photo sur le forum, comme ça vous verrez bien à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, pour vous replacer le truc, Grand Train, c'est une friche de la SNCF qui a été convertie en bar géant de 3 hectares. Et donc, il y a un endroit DJ où en fait, il y a un billard et des vieilles chaises. Et on dirait un vieux PMU d'une gare de province, comme dirait Fibre. Et tout ça, en fait... Bah les mecs, c'est du décor en fait. On était dans un décor géant. Les gens de Grand Train nous ont dit non, on a tout redécoré. C'était pas juste les trucs qui étaient restés là qu'ils avaient nettoyés. Non, c'est du décor parce que comme ça donne envie aux hipsters de passage de prendre la même photo. Et on a pris la même photo.
Vieille
France, Indus dépouillée. C'est ça qui nous plaît quoi. Donc avant il y a d'autres gens qui prennent des photos de macchiato dans des coffee shops à San Francisco ou des bières dans une forêt au Canada. Enfin, vous avez plein de versions de ça si vous voulez.
C'est l'impaille qui suit de la tempe là.
Je vois pas ce que tu parles.
En gros, l'idée c'est qu'au début, Internet ça devait nous faire découvrir le monde. Quand on est arrivé, on a découvert des trucs de ouf et on se disait putain mais ça existe ces trucs, c'est dingue, c'est fou. Et en fait là, on a pris nos petites habitudes et ça nous fait reproduire dans la vraie vie ce qu'on voit virtuellement. Donc on utilise des applis super belles et simples d'utilisation. Du coup, on rentre dans des restos et des bars et des apparts blancs et super simples d'utilisation qu'on découvre à Istanbul ou au Danemark. C'est la même chose. C'est ça. Et en fait, je sais pas pour vous, mais je sais pas dans combien de Airbnb vous êtes allé où la déco était minimaliste, était la même.
C'est clair.
Des chaises imitation IMS.
Ouais.
Des ampoules qui pendent par un fil rouge ou bleu, vous voyez.
Check.
J'en ai installé chez moi.
Voilà. Allez. Des meubles en bois, de la vaisselle de pique-nique blanche céramique.
Ah ouais.
Voilà, exactement, avec un renard dessus pour Sylvain en l'occurrence. Et moi, je me suis quand même retrouvée dans un Airbnb à Istanbul qui était vraiment comme ça. J'aurais pu être Helsinki, c'était la même chose, quoi. Donc en fait, on voyage plus que jamais. On peut voyager vraiment en 2 secondes parce que les prix, maintenant, c'est hyper simple. Mais en fait, maintenant, on va en vacances dans des catalogues IKEA. Et en fait, le design minimaliste de ces sites, il ressemble à, enfin, dont l'UX est si pratique, ça donne les mêmes espaces de vie. C'est quand même dingue parce que tout doit être easy, satisfaisant, propre, comme ces applis sont easy, satisfaisantes et propres. Ouais. C'est blanc épuré comme Instagram et Airbnb et tout ça, ça se voit dans notre salon. Et c'est un cercle vicieux, en fait, parce que pour avoir l'air cool, on va prendre cette photo sur Instagram qui ressemble aux autres. Et donc, en fait, on se fond dans le moule et on met des super notes sur TripAdvisor pour ces lieux. Et du coup, quand on va en vacances, on check TripAdvisor et du coup, on va dans ces lieux. Et donc, en fait, Airbnb, quand ça s'est lancé, c'était la version propre de Craigslist où là, vous pouviez trouver des trucs hyper douteux.
Ouais, c'était chez l'habitant.
Et Craigslist, c'était très drôle parce que c'est toujours un site dégueulasse en HTML bleu, ouais, là, avec, ouais, les liens soulignés. Et alors que Airbnb, justement, c'était hyper facile à utiliser et super beau. Et donc, c'est, en fait, on a préféré garder des Airbnb et aller dans des trucs simples et safe plutôt qu'aller sur Craigslist et tomber sur des trucs certes intéressants, mais parfois dangereux. Ça peut arriver, quoi. Et en fait, Airbnb, ce qui est très drôle, c'est que justement, au mois d'août, quand le papier est sorti, ils ont engagé une nana qui donne des conseils. Ah, d'environnement, de décoration intérieure, de machin.
Donc, eux, Airbnb te, oui, dit parce que Airbnb,
en fait, dans les règles, ils disent mettez quand même des trucs perso, mais pas trop perso. Mais vraiment, genre, il y a un appartement avec de la personnalité, mais pas trop d'objets personnels. Un truc complètement paradoxal, on comprend rien.
Dictature du truc. Voilà.
Alors après, tout ça n'est pas très nouveau parce qu'en fait, le capitalisme avait déjà apporté les mêmes magasins dans les centres-villes, par, oui, exemple. Donc on avait déjà des Zara, des McDo, dans chaque centre-ville du monde entier. Donc on avait déjà l'impression de vivre dans des endroits qui se ressemblaient de plus en plus à cause de la mondialisation. Mais là, le problème, c'est qu'on est un peu, on fait partie du processus. On devient des clones, on nourrit. Et donc, maintenant, on a nos statsmis, notre lampe de chevet. Tout se ressemble, qu'on soit à Istanbul ou au Danemark. Et tout ça, grâce à un média, qui est quand même l'endroit où tu peux trouver, mais tout. Ouais, genre, du pire au plus beau de l'humanité, quoi. Et donc, en fait, on est parti d'un début d'Internet où on aurait pu faire n'importe quoi. Et en fait, on se retrouve à créer jusque dans notre espace de vie des trucs fous. On voulait se retrouver entre internautes curieux et en fait on joue tous la comédie.
Oh là 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 là.
Quelle tristesse.
Sévère de la part de Missa, mais je sens que beaucoup de gens ont hoché la tête en disant tout, oui, c'est vrai. Oui, ouais, oui, c'est vrai. Tout cela est vrai.
Tout à fait vrai, ouais.
Est-ce que vous avez fait du Airbnb? Est-ce que vous avez enfin été hôte ou été invité enfin, oui, client d'Airbnb? Est-ce que vous êtes retrouvé un peu dans ce que Missa vous décrit, cette sorte de monde néo-ikéarien,
bah ouais,
un peu rétro-indus.
Je pense que c'est, enfin moi c'est le cas. Hein, ouais, et je pense que, alors c'est une bonne chose et une mauvaise chose pour deux
raisons.
Pour deux raisons. La première, c'est que du coup, ça permet de rendre visitable des endroits où tu serais jamais allé. Tu vois.
Ah oui.
Mais ouais, mais
par exemple, un bled à la con en Turquie, tu te dis, mais jamais de la vie j'irai là-bas, tu vois l'appart, tu fais, ah, bah, au moins.
L'appart est cool.
La nuit, ça sera cool. Après, il y a peut-être des loups-garous dans les rues et tout, mais au moins, la nuit, tu vois, je dormirai dans un truc qui ressemble, en fait, à ce que je connais. C'est-à-dire, on reste dans notre zone de
confort.
Donc, pour
toi, ça reste des sortes de, des feux de camp, des points de réconfort.
Des îlots, en fait, où tu restes dans ta zone de confort, même quand t'es à l'autre, d'accord, bout du monde, en fait.
Donc mais là-dessus, tu dis ok quand même.
Mais tu pourrais quand même avoir un appart hyper sympa à Istanbul qui ressemble pas à un appart.
Ouais, mais en fait, sincèrement, pour avoir fait aussi des locs un petit peu chez l'habitant, c'est glauque, quoi, tu vois.
Il y a des gens qui sont pas glauques.
Ça fait partie de l'expérience aussi.
Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, mais bah, des fois, tu vois, l'expérience, t'as pas envie de la vivre au niveau de là où tu dors la nuit. Donc tu préfères la vivre dans la rue pour la journée.
C'est un peu comme dans les années 80 entre les gens qui faisaient du camping sauvage et les gens qui allaient au Club Med. T'es plutôt team Club Med.
Mais non, mais regarde,
où que t'ailles, ça ressemble à un Club Med, mais ça te rassure.
Tu prends un Zelda.
Oui.
Où que tu sois dans Hyrule, les auberges ont la même gueule. Vrai ou pas vrai? Même au fin fond du désert, tu vois, quand tu dois aller sauvegarder le soir, et ben boum, t'es dans un truc, c'est une auberge, il y a un petit bar et trois lits.
BNB no Densetsu.
Voilà, par exemple.
Sylvain, toi qui a beaucoup coché.
J'ai coché
beaucoup de cases.
J'ai eu la chance de pas mal bouger cet été, et effectivement, que ce soit, et là je vais un peu dropper, que ce soit Amsterdam, que ce soit Londres, que ce soit San Francisco, Portland, Vancouver, Seattle, effectivement, tous ressemblent.
Ah ouais?
Tous ressemblent. Et j'ai même été surpris, un truc de fou à Londres, ils adorent ça. C'est qu'ils font des petits cafés en mode hyper hipster, machin, avec la petite enseigne, ouais, en bois gravé, machin. À l'intérieur, la déco, elle est ouf et tout. Et tu te dis, ah, trop bien, je vais boire un bon café artisanal, ouais, avec une vraie barista qui own l'endroit et tout. Et en fait, c'est une chaîne. Et tu croises des coffee shops comme ça, t'en croises plein partout dans Londres. Tu te fais, non, mais comment ils ont fait? Comment ils ont réussi à donner ce petit coup authentique au truc? C'est assez dingo. Et je rajouterai un truc supplémentaire à l'analyse de Mélissa, c'est l'algorithme aussi.
Ouais.
Moi, j'utilise beaucoup Pinterest. Et le moteur de recommandation, il est hyper, hyper ouf. Mais ouais, par contre, il nivelle en fait le ce que doit être l'esthétisme et ce que doit être la beauté et à quoi doit ressembler un appartement.
On revient dans un des marronniers de l'émission, ouais, qui sont les algorithmes en fait.
Ouais, carrément, carrément.
Donc pour toi, l'algorithme joue un vrai rôle dans l'uniformisation de ce que tu vois en fait.
Ouais, c'est clair.
Donc peut-être qu'en fait sur un Airbnb, il existe des choses très exotiques.
Oui, mais sont pas mis en avant parce que l'algorithme, ouais. Et c'est là que la fonction des hipsters est aussi très intéressante.
La fonction
c'est
des hipsters.
Non, mais c'est vrai, c'est qu'ils vont refuser le mainstream. Donc le jour où tout le monde aura des lampes Edison, et ben les hipsters, ils iront sur autre chose et ça va renouveler le truc, tu vois.
Donc mais c'est à dire qu'on ira, oui, d'un standard à un autre.
Ouais, c'est ça, en fait. Mais complètement, mais de toute façon, c'est un cycle infini, hein.
Oui, bien sûr. Fibre, qu'est-ce que tu penses de ce cri de Mélissa?
Alors, assez triste par cette mondialisation, mais ouais. Enfin, logique, après la télévision, vous allez dans n'importe quel pays du monde, sauf en Iran et en Corée du Nord, vous avez les experts, vous avez les Simpsons, vous avez voilà, ouais. Les mêmes choses.
Là, tu rejoins le côté, on retrouve du Zara, du H&M partout.
Voilà, ouais. Même d'ailleurs, pour reprendre le raisonnement de Daz, c'est-à-dire lui, il a son safe spot Airbnb, mais il pourrait dire, je crains un petit peu le biryani à Bombay, je préfère aller au McDo de Bombay, tu vois, et ouais. Au McDo, il sait qu'il aura des trucs un petit peu avec une certaine norme d'hygiène. Ouais. Par contre, moi, j'ai une théorie inverse sur ouais. Airbnb, limite conspirationniste.
J'adore, ça commence super bien.
Alors, c'est que Airbnb nous oblige à dépersonnaliser chez nous, parce que chez nous, c'est une sorte de sanctuaire de l'intimité.
Ouais.
Comme j'ai dit un jour, c'est pas la peine d'acheter 120 euros des culottes sur Amazon. Vous louez l'Airbnb de Mélissa et vous en chopez deux ou trois. Et franchement, c'est beaucoup plus rentable.
Arrête, putain!
Là, c'est pas du conspirationnisme, c'est du creepy.
Non, mais
ultra glauque.
Non, mais moi, je veux dire quelque chose. Je suis parti des exemples, hein, comme ça.
Oui,
on voit encore des exemples, on adore.
Non, mais je pars une semaine à Londres. On est six pour un salon. Je me retrouve dans la chambre de la fille qui a 11 ans. Il y a libéré, délivré sur le mur, tout ça, etc. Je suis donc dans le lit d'une fille de 11 ans.
Tout le monde grince des dents à la fille.
C'est super cringy, là.
Non, je vous dis pas la suite, mais je veux dire...
Non, mais nous dis pas.
Non, mais continue, vas-y, parle.
Non, mais par exemple, Daz, il veut se faire qu'un peu de sous. Il loue son appartement.
Oui.
Il loue son appartement. Il a à un moment, quelqu'un va dormir dans le lit de sa fille, dans leur lit à eux.
Ça dépend de
ce que c'est. Si c'est des jeunes mariés.
Il va pas le faire.
Il va se passer des choses. Mais oui, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive même au Airbnb de Mélissa et de Sylvain.
C'est-à-dire qu'on échange tous
les draps.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des inconnus. Ils rentrent dans votre intimité, ils voient
d'accord.
Tout.
Okay.
Et ils prennent des culottes.
Et ils se barrent. Non, mais vous avez un petit peu d'argent, vous allez prostituer votre appartement. Voilà. Mais ouais. C'est dégueulasse. Et moi, je prends des hôtels.
Tais-toi. Arrête, c'est trop malaise.
Non, mais
ce qui est intéressant, c'est que maintenant, dans les Airbnb, maintenant, c'est de plus en plus pas les appartements des gens.
Oui.
Et ceux qui les louent et c'est encore leur appart, je pense qu'il y a des gens qui arrivent dans les Airbnb qui se disent putain, c'est encore le vrai appart de quelqu'un, ils sont hyper choqués parce qu'en fait la plupart des Airbnb du monde entier, c'est des hôtels.
Airbnb veut être l'hôtel mondial
oui.
Où toutes les chambres sont uniformisées, mais ça reste quand même chez vous parce que le Airbnb au quotidien, c'est l'appart de Sylvain et l'appart de Mélissa.
Oui.
Voilà, c'est tout. Donc il y a cet aspect. Excusez-moi de dire, le mot est un peu exagéré, prostitution, parce qu'en plus c'est connoté tout ça.
Un tout mais petit peu.
Mais à ce côté, voilà le sanctuaire de mon intimité, bah, oui. Je fais venir des inconnus qui ont de l'argent. Voilà.
Oui, mais après, oui, ces inconnus sont normalement bienveillants, ils sont pas supposés partir avec des culottes.
Oui, mais les... ça s'appelle la location, en fait.
Non, mais
tu
les inconnus qui vont être prostitués sont toujours bienveillants aussi, Daz.
Oui, non, mais enfin. Je veux dire Airbnb. Je pense que, enfin, moi, quand je vais quand on va dans un Airbnb, j'ai jamais de ma vie j'ai ouvert un des placards qui était présent.
Bah,
Fibre aussi.
Non, mais parce que Fibre, dis-moi non plus.
Je vais rien dire parce que je vais encore louer des Airbnb. Mais non, moi, je regarde partout. Bien sûr, c'est vachement intéressant. Mais attendez, vous regardez Secret Story, vous regardez des snaps, vous regardez. Bah, là, vous êtes chez quelqu'un, vous êtes toute sa vie. Bah, vous regardez partout, c'est normal.
Ce qui est fou, c'est que ce que dit Fibre est profondément dérangeant, mais en plus c'est très vrai. Il y a un côté vraiment, c'est très dur à entendre, mais il y a un peu de vrai quand même.
Et c'est ça. Et Airbnb, en fait, il est au bord d'une crise. C'est-à-dire que si les gens s'aperçoivent un jour, s'il y a l'article de Slate qui dit attention, 25% des mecs qui louent des Airbnb vont se branler dans vos sous-vêtements, et ben dans ce cas-là, Airbnb il explose. Non mais c'est vrai.
Moi j'ai cru qu'il volait des culottes juste.
Ah la merde, mais là c'est la révélation. Aïe.
J'ai pas dit que je le faisais.
Oui.
Mais je
veux dire,
c'est
dans le champ des
possibles.
Mais
je serais un mec creepy, je le ferais, je serais ravi.
On dirait le livre de O.J. Simpson. Si c'était moi qui l'avais fait, mais bien sûr j'ai été innocenté. Pour revenir dans la lumière un petit peu, non, ce que dit Fibre est intéressant, et si on synthétise avec ce que disait Mélissa, est-ce que du coup le Airbnb et la Airbnbisation et la airspacisation de nos espaces, c'est aussi effectivement une sorte de fin d'intimité. Est-ce qu'à un moment, quand on partage nos vies avec tout le monde sur les réseaux sociaux, on voit la vie de tout le monde sur les réseaux sociaux, on partage nos logis contre l'argent ou pas, parce qu'il y a aussi le couchsurfing, donc il y a des gens qui accueillent ouvertement des gens chez eux, etc. Et est-ce qu'à un moment, il y a aussi une sorte de fin de l'intimité au sens, mon chez-moi, c'est mon sanctuaire un peu sacré? Il y a un côté un peu, bah, de toute façon, mon chez-moi, il est fait pour moi et pour des gens. Et c'est de là que vient la standardisation, finalement.
Fin de la personnalité, même.
Ouais, toi, en fait, tu uniformises volontairement ton chez-toi en sachant que tu vas faire.
Si à un moment, tout
gens.
Devient collé, je disais, dans une sorte de grand schéma mondial franc-maçonniste, est-ce qu'à un moment, plus sérieusement, à ce moment on se dit effectivement il y a une fin de l'intimité, il y a une fin de la propriété. Enfin, on vit tout ça en ce moment quand même. C'est un peu l'époque.
Ah, ouais, mais là, tu, tu vas loin là quand même.
Non, oui, mais moi, c'est bien vu sur ce 404.
Je suis d'accord avec là, mais et moi c'est pour ça. Enfin, j'ai un peu arrêté parce que ça, c'est un peu chiant.
Parce que ton propriétaire il commence à se poser des questions.
Non, mais ça me saoule de.
Sylvain, pour rappeler, toi tu loues aussi. Ouais. Tu as un autre Airbnb.
Ouais, mais c'est trop de travail. Ça me saoule. Mais quand je le fais. Je le fais aussi un peu pour me dire, pour essayer de lutter contre, je sais pas comment le dire, mais avoir mon chez moi, avoir mon confort, etc. Ouais. Sortir de ma zone de confort, ouais. Comme les start-upers. Je loue mon appart sur Airbnb pour qu'il y ait des gens qui viennent dedans et pour que j'ai moins l'impression de m'enfermer dans mon chez moi, en fait.
Ah, d'accord. Tu vois. Donc pour toi, c'est une sorte de.
Je lutte un peu contre, le côté très propriétaire. Ouais. Etc.
Tu fais rentrer dehors chez toi pour avoir moins l'impression d'être chez toi.
Ouais, j'essaye d'accentuer le partage, tu vois, de faire de moi une meilleure personne.
Il accentue.
De faire du monde un meilleur endroit.
C'est bien d'accentuer le partage, surtout quand c'est en HD.
C'est vrai. Le partage en HD.
13e partage.
On attend impatiemment vos réactions. Alors pas sur ce que Fibre a dit, pas sur tout ce que
Fibre. Pourquoi pas.
Mais on attend impatiemment vos réactions pour savoir si cette airspacisation, cette uniformisation des espaces avec l'esthétique de certaines startups, de certaines apps et de certains services est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et en attendant, on attaque la dernière FAQ. Et là, vous nous expliquez comment vous avez documenté vos vacances.
FAQ.
Sur Instagram principalement, mais j'ai pas eu beaucoup de vacances, donc on essayait de faire en sorte de faire croire qu'on avait beaucoup de vacances alors qu'on en avait pas beaucoup et qu'on passait son temps à travailler.
Non, je suis assez sélectif, en fait je partage assez peu, donc je préfère choisir un peu les photos, bien les traiter, les partager une fois que je suis bien content de ce que je fais. Et donc après je les partage sur Facebook pour famille, proches, etc. Instagram pour très grand public et Google Plus malgré tout parce que je suis actif sur Google Plus.
Cet été, en fait, j'ai testé un truc, c'est de quasiment rien poster sur les réseaux à part quelques snaps forcément obligés. Mais sinon vraiment j'ai absolument rien posté sur les réseaux et je posterai à la rentrée je pense. Je ferai chier tous mes followers comme ça.
Alors je vous ai pas documenté de fou parce que j'ai pas trop eu de vacances. Je suis juste partie 5-6 jours. Et je les documente pas dans le sens où quand je pars je me déconnecte surtout. Donc du coup je pense que j'ai posté une photo sur Instagram, une photo sur Facebook pour foutre la mort aux gens. Mais donc genre une image. Et sinon j'avais plus des conversations privées avec des potes avec qui je parle genre tout le temps. Et sinon j'ai mes potes avec qui on fait des concours de cartes postales moches, les plus moches. Et donc du coup je cherche la carte postale la plus laide du monde et je les envoie.
Tout le monde fait ça.
Et d'ailleurs
ça,
j'ai un
tristesse.
Pote à qui au début j'envoyais toujours des cartes postales horribles mais à l'adresse de ses parents. Et il vit plus chez ses parents, mais j'envoie toujours à l'adresse là-bas en balançant des vieux dossiers dans la carte postale sans enveloppe. Et c'est des cartes postales très très laides.
Juste beaucoup d'Instagram au final, essayer de prendre beaucoup de photos. Joli de préférence. C'était jamais le cas, mais bon, j'essayais. C'est ça qui importe.
Alors, les SMS, c'était pour ma daronne. C'est obligé pour savoir où t'es arrivé, est-ce que t'es en vie. Snapchat, ça, obligé pour raconter un peu ma life. Et ouais, c'est un peu 3615 ma life, Minitel, tu vois. Et Instagram, vraiment
quoi
pour se la péter.
Mini quoi
un peu, tu sais, comme les blogueurs avec l'envers du décor. Je sais pas si t'as vu avec sur Tumblr où t'as le compte Instagram et le bordel autour. Ouais, c'était un peu ça, genre tu cadres un peu à gauche, un peu à droite. C'est bon, on est bon.
J'ai essayé de pas genre être le gars qui envoie toutes ses photos de vacances, tu vois. Je me suis dit, je sais pas, qu'il y a un truc qui me marque. Où je passe un bon moment, bah je l'envoie. C'était à peu près une par jour, sur 6 jours, ça allait quoi. Facebook,
une par jour,
pas d'Instagram, pas de Twitter. Peut-être des fois un message, un SMS à un meilleur pote, un truc comme ça. Plus tranquille quoi.
Alors j'ai documenté mon été principalement sur Instagram, quelques Snapchat aussi. Après Facebook, non pas du tout. Carte postale, je crois que j'ai abandonné il y a 5 ans. Quelques photos aussi pour énerver un peu les copains, genre par texto, regarde où je suis, t'es vénère, t'es au taf. Mais ouais, non, j'ai documenté comme ça.
Plutôt Facebook. Et après Instagram pour ceux qui suivent et qui veulent plus de photos et pour choper des followers. Si j'ai pas 500 followers, je rentre pas de vacances.
Alors, je fais toujours des gardes postales pour ma grand-mère.
Modestes.
Et cette année, j'ai décidé de pas parler de mes vacances. J'ai pris des photos sur Instagram et je les ai postées après être rentrée pour avoir des vacances complètement intimes.
Mais moi, je suis sur tous les réseaux. J'adore tout. Mais sur Instagram, Facebook, Twitter, tous les réseaux. Il ne faut ni que j'ai aucun réseau.
Oui, j'ai documenté sur Facebook. Mais j'ai pas fait en mode tous les jours. J'ai fait quand je suis rentré en France, j'ai tout envoyé les photos. J'ai fait un petit tri et j'ai envoyé des vidéos, etc. sur Facebook.
Je suis pas beaucoup parti en vacances. Le peu que j'ai fait, c'était avec ma boîte. C'était des semi-vacances, semi-boulot à Venice Beach.
Ça va.
Et du coup, Instagram et
Facebook.
Donc, Instagram, Facebook, Snapchat, le trio de base. Foutre la haine
beaucoup
aux copains.
Ouais, beaucoup d'énervement quand même.
Beaucoup de foutre la mort à ceux
très
qui sont
sympa,
pas partis.
Hein, très sympa.
C'est vrai, c'est comme
très bienveillant.
Ouais.
Comme très
on s'aime tous.
Et vous, rapidement, pour finir l'émission, comment vous
Instagram.
Avez raconté Instagram.
Instagram aussi.
Instagram, ouais. Sylvain.
Pas de Snapchat, pas d'Instagram Stories, que de la photo sur Instagram.
Et Fibre.
Insta et beaucoup de Snap.
Bon. On a encore une fois les auditeurs qu'on mérite. Hein. On est complètement dedans.
Voilà.
Ouais.
Bon, écoutez, en tout cas, ça clôt notre émission de rentrée. Ça nous a fait du bien. Ça m'a fait du bien de vous revoir. C'était cool.
Oui, moi aussi.
C'était très sympa. Chouette.
J'espère que nos trois auditeurs qui nous écrivent en caps lock, bande de nazes, envoyez vos émissions au lieu de faire des Patreon et des forums.
Il y a un compte Twitter qui a un seul tweet, c'est celui-là.
Voilà. Notre seul commentaire sur Patreon, c'est aussi ça, un message en caps lock pour dire mais envoyez vos émissions.
On demande de l'argent, non, on fait pas.
Oui. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien parce que le Patreon qu'on a lancé est déjà un vrai petit succès. On a plein d'objectifs grâce à vous. Et on espère qu'on va grandir très vite. Vous aurez bientôt aussi nos amis de C'est Cool, C'est Quoi qui nous ont rejoints pendant l'été. Ben et Joe feront bientôt leurs premières émissions avec nous. On est très très impatients de commencer ça ensemble. On remercie bien sûr nos amis du Tank, nos partenaires du Tank qui nous logent depuis quoi ? 2 ans maintenant ?
2 ans, ouais, 2 ans.
Hein, un peu comme Airbnb gratuit, une sorte de couchsurfing.
C'est ça.
Ils refont même plus la déco quand on vient, ils disent bon, le frigo ouvert, prenez ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, on espère continuer à être avec eux longtemps. Merci à Grand Train aussi
pour cette magnifique fête.
Voilà, cette soirée, on va faire d'autres choses avec eux. C'était vraiment très sympa de vous rencontrer. La prochaine fois, on fera de la pétanque pendant 5 heures, je pense. Parce que
ouais. Ça cool. Sera sympa, la pokétanque.
C'était vraiment bien. Et en tout cas, nous, on se retrouve dans un mois pour une prochaine émission. On se retrouve tout de suite sur le forum, bien sûr, Internet, Twitter, Patreon, Facebook, toutes ces choses-là. Et je vous laisse avec un dernier petit questionnaire en forme de teasing, puisque nous avons demandé à nos auditeurs qui étaient présents à la soirée Grand Train, comment ils imagineraient un podcast sur les mathématiques produit par qualité. Allez, ciao et bonne écoute.
Bye bye.
Salut.
Ciao.
Chiant, putain. Ça va être tellement chiant. Alors, je voudrais que Fibre m'explique le pourquoi et le comment de toutes les formes géométriques, en fait. Voilà, le pourquoi du triangle, le pourquoi du cercle. Et ce serait très intéressant.
Déjà, je m'attendrais à ce que ce soit Fibre Tigre qui soit l'animateur. Et je m'attends à quelque chose d'assez intéressant. Je suis curieux.
Je veux que Fibre Tigre nous explique tous les moindres détails de notre vie en les justifiant par des formules mathématiques. Ouais, ça pourrait être super cool. Et en plus, on se sentirait un peu bête et il se sentirait super bien dans ce rôle de papa qui nous apprend les maths.
Je m'attends à un truc assez pointu et du coup j'aimerais bien que me tromper en fait, que ça arrive à vraiment être accessible un peu aux noobs des maths et voilà, avec peut-être un petit truc un peu marrant, je sais pas trop comment ça pourrait être tourné mais voilà quoi, pas trop spé, ça pourrait être cool.
Sur les algorithmes YouTube j'aimerais bien.
D'accord.
Ouais, vraiment de la vulgarisation pour apprendre des choses.
Du monologue de Fibre Tigre.
Podcast, mathématiques, je pense Math Podcast. Et donc je verrais bien un plagiat d'un podcast américain. Je m'y connais pas assez, mais je pense qu'il y a de quoi creuser. Sans trop adapter non plus, juste de la traduction, ça peut être pas mal déjà.
Ou plutôt donner envie aux autres de faire des maths. Et mon idée, c'est que si c'était moi de quand j'étais au lycée qui aimait déjà les maths, que ce soit un truc que j'aurais envie d'écouter, qui me convainque que je fais bien de faire une fac de maths et de continuer les maths et de faire de la recherche en maths.
J'imagine qu'on m'explique le fait que les maths, c'est magique.
Je m'attends à un podcast pour les gens qui sont éclairés sur les mathématiques, qui connaissent les mathématiques.
Je m'attends plus à de l'innovation sur la forme.
D'accord.
Sur la forme. Puisque les mathématiques, on sait à peu près comment ça se passe. Et la forme, je pense que c'est ça qui peut changer la manière dont on perçoit les maths.
Non, je pense que j'écouterai par curiosité, parce que c'est Studio 404. Mais je suis pas sûr que ça pourrait m'intéresser parce que les maths et moi, ça c'est deux déjà à l'école, donc il faudrait vraiment que ce soit sur un angle intéressant. Donc peut-être que Fibre Tigre il va réussir à faire quelque chose de nouveau, mais a priori non.
Plutôt démocratique, avec des questions genre
on a été compté combien est-ce qu'il faut d'abeilles pour, je sais pas, produire 200 milliards de litres de miel. Enfin, tu vois, des calculs un peu cool, un peu marrants.
Un truc un peu pragmatique quand même.
Un truc un peu pragmatique, ouais.
D'accord, très bien.
Je m'attendrais à ce qu'il y ait que des mecs autour de la table. Et ce serait cool que de temps en temps, il y ait des meufs et qu'il y ait plein de gens pour en parler. Un peu de diversité.